Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et bien évidemment, on va parler de football. Ça fait 2 semaines, vous nous avez manqué. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On est de retour, comme le soleil. Comment ça va, Alexandre?
Ça va très très bien, et toi?
Tu as pu suivre les matchs de l'Inter Miami?
Ouais, j'ai kiffé. 2 buts de passe dé de Messi, c'était magnifique.
Ah ouais, le match il était beau à voir.
Ah non, moi je parle quand j'étais à Miami, moi.
Oui, à Miami, oui.
Ah, bah non, après c'est un niveau assez faible, on va pas se mentir, mais ça fait plaisir de voir des anciennes légendes quand même.
Merci Alexandre. Maxence qui a sorti la chemise aujourd'hui. Maxence, c'est en quel honneur? C'est pour.
C'est pour l'émission.
C'est pas pour l'émission.
Si tu veux, j'en prendrai une spéciale la semaine prochaine.
Bleu de préférence. Ligue des Champions Paris Saint-Germain.
J'ai pas ce ton de bleu, j'ai que du bleu ciel, désolé.
Comment ça va, Maxence?
Ça va et toi? Bon, la saison commence à être longue là.
Ah, commence à être longue, ouais.
On est sur le 12e mois d'analyse, donc bon, on va essayer de se renouveler.
Ok. Ok, Maxence, comme on m'a parlé en même temps. Super, alors Maxence, on va pas parler du Paris Saint-Germain. Si, un peu quand même.
Si, on peut en parler.
On va en parler un peu. On va revenir sur les derniers matchs. Jason, comment ça va, Jason?
Ça va et toi, Eladj?
Ça va, tu t'es remis de la défaite
Difficilement, mais bon, on essaie de faire d'oublier le passé, mais c'est très compliqué quand ton entourage est parisien.
C'est sûr, comme là tu l'expliquais, tu voyais des Ligues des Champions un peu partout.
C'est ça. Dans tous mes réseaux, je vois des Ligues des Champions partout, donc je squeeze un peu.
Ça s'arrange pas hein, avec Inzaghi qui part côté interiste?
Ah, je pense que ça pourrait faire du bien, parce que ça y est, là, je pense qu'une page est en train de se tourner, et on va voir ce que Kevou nous réserve.
Ok, merci en tout cas, Jason. Léo, comment ça va, Léo?
Salut, Eladj, ça va et toi?
Ça va, super. Malgré la perte de la pépite Cherki hein, qui s'en va du côté de City.
Il fallait s'y attendre, puis il s'en va à City. C'est un beau challenge pour lui, être entraîné par Guardiola dans l'une des meilleures équipes du monde. Que demander de plus pour lui, quoi?
C'est un bon challenge pour lui. Après, côté lyonnais, faudra se refaire une santé aussi, non?
De toute façon, on sait que l'été s'annonce un petit peu difficile avec le passage devant la DNCG la semaine prochaine. Mais là, City nous a bien aidé à renflouer les caisses. Donc, ça devrait le faire, visiblement.
Pour 53 millions, c'est bien ça, hein?
C'est 40 plus un joueur en prêt et des bonus pour 2,5 millions, il me semble.
Des bonus pour 2 millions et demi. C'est pas mal quand même. Hein,
pour, c'est une belle vente pour un an de contrat. Ouais.
Pour un an de contrat et pour Cherki, ouais, en tout cas en début de saison, comment c'était parti.
Tout le monde est gagnant dans l'histoire, je pense.
Exactement. On va parler de football. Hein. On va commencer par la Ligue des Nations. Hein. Je sais pas ce que vous avez pensé de la Ligue des Nations. Hein. La France, qui ne sont pas passés loin de se prendre une correction face à l'Espagne, hein, qui ont perdu 5-4. Et on a pu voir aussi le Portugal s'imposer face à l'Allemagne, 2-1. Et on va parler de ça dans un premier temps, avant de parler des phases d'après, la finale et la petite finale pour la 3e place et pour la première. Quelles sont vos analyses sur ces matchs-là? Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Bleus face à l'Espagne, Alexandre?
Bah alors honnêtement, d'un point de vue plus global, déjà la Ligue des Nations, moi c'est une compétition qui m'intéresse très très peu. Mais bon, je regarde les matchs parce que j'aime le foot et qu'il faut se tenir informé. Mais dans l'émission d'avant, Stéphane il a dit qu'il n'y avait pas un si gros écart entre la France et l'Espagne. Parce que c'est vrai qu'il y avait des absents, il faut le souligner quand même, notamment en défense. Mais... selon moi, il y a un énorme écart entre ces deux équipes. Et même s'il y avait des absents, en fait, il y a une telle cohérence dans le jeu de l'Espagne. Ils se connaissent très très bien. Ils ont une affinité technique qui est sans pareil. Et ils ont des joueurs qui individuellement font des grosses différences. Que pour moi, en fait, il y a un écart énorme entre les deux équipes et que le sursaut de l'équipe de France, il arrive certes parce que Cherki fait une très bonne rentrée et que on connaît le football, de toute façon, il y a des temps forts et des temps faibles, etc. Mais je pense que s'il n'y avait pas le poids du score, les Espagnols n'auraient jamais laissé 15 à 20 minutes de flottement comme ça et une fin de match aussi mal gérée. notamment que surtout qu'il y a, des joueurs qui sont sortis en plus pour les Espagnols. Donc c'est pour ça, moi je pense que il y a quand même une un monde d'écart entre les, enfin un monde d'écart, je suis peut-être un demi-monde, on va dire un demi-monde d'écart entre les deux. Ça fait des mois et des mois, on l'a dit plein de fois dans cette émission, qu'il y avait besoin d'avoir un profil différent et un profil pour remplacer Griezmann, un profil plus créateur, plus créatif et plus fin techniquement. Ryan Cherki, il est pour moi le choix parfait, le choix évident. Donc j'espère que l'équipe va tourner un petit peu autour de Ryan Cherki et qu'on va diminuer un petit peu la place de Kylian Mbappé.
Ça va être le nouveau Antoine Griezmann, hein, si on peut dire, même un peu plus offensif, je sais pas.
Moi je pense.
En tout cas, avec Ryan Cherki, qu'est-ce que t'en penses, toi, Maxence ? Déjà, dans un premier temps, je voudrais revenir, est-ce que vous êtes d'accord autour de la table avec, avec les déclarations d'Alexandre, hein ? Alexandre qui dit qu'il y a un demi-monde qui sépare l'Espagne et la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec, avec ses propos ?
Ouais, tout à fait. Moi, je partage son analyse sur le fait que, notamment, le faible écart au score est dû au fait que l'Espagne, à partir de la 65e, a commencé à faire tourner, à sortir des joueurs importants et était moins, moins focus. Après, il y a un débat plus large à faire autour de ces matchs-là et on pourra en parler pour la Coupe du Monde des clubs. Hein. Mais on sent qu'il y a beaucoup de mecs qui sont à bout, il y a des gestions de temps de jeu. Les joueurs qu'on jouait toute la saison sans se blesser, qu'on fait la Coupe d'Europe, qu'on fait les rassemblements internationaux, qu'on fait les championnats, les coupes nationales, Ils en peuvent plus, ils sont plus que cramés. Donc ça m'étonnerait même pas qu'on ait des graves blessures à la Coupe du Monde des clubs d'ailleurs. Mais la Ligue des Nations, c'est pour ça que moi je ne vais pas en tirer des conclusions plus que ça, même si, bon voilà, sans surprise, l'Espagne a beaucoup plus de cohérence collective, la tactique est mieux en place, les joueurs se connaissent, ils se trouvent beaucoup mieux que nous, où on joue dans une espèce de hurrah football permanent en comptant sur... des individualités qui feraient la différence. Voilà. Et après, pour en revenir à Cherki, je pense que c'est un peu tôt pour comparer à Griezmann, parce que je pense que si une compétition devait commencer demain, Cherki ne commencerait pas titulaire, dans l'esprit de Deschamps, hein, du moins. Même avec sa rentrée. Je pense que déjà, je pense que Deschamps utilisera le prétexte de ces matchs-là, et notamment du match contre l'Espagne, pour dire que le format à 4 devant... ne fonctionne pas. Donc je pense que contre une grosse équipe en Coupe du Monde, il repassera avec un milieu à 3 bien travailleur et une ligne de 3 devant avec des mecs rapides. Donc Cherki n'aura pas sa place dans ce système-là. Et je ne le vois pas attaquer un quart de finale de Coupe du Monde contre l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne, le Portugal en 4-2-3.
Merci Maxence. Moi j'aurais ramené un peu plus, je sais pas, est-ce que vous êtes d'accord vous avec ces propos ? Il y a un demi-monde d'écart, parce que moi quand j'ai vu la France jouer, il me semblait pas qu'il y avait un demi-monde d'écart, il me semblait même pas qu'il y avait un écart entre les deux. Hein. Et honnêtement, si la France est assez bon dans le dernier geste, ils mènent déjà au score. C'est eux qui font l'ouverture du score. Je repense à plein d'actions mal gérées, hein, que ça soit en première mi-temps, Kylian Mbappé qui loupe son face-à-face, Adrien Rabiot qui décide de tirer alors qu'il y a Dembélé tout seul à droite. C'est voilà, avant le premier but, hein, et je pense que le premier but même arrive côté Espagne contre le cours du jeu. Qu'est-ce que t'en penses, Jason ?
Pour moi, il n'y a pas un monde d'écart entre les deux équipes. C'est juste qu'il y a une équipe qui a plus d'automatisme que l'autre. La France a bien commencé les 15 premières minutes. S'ils sont efficaces, on peut dire qu'il y a 1 ou 2-0 parce que l'Espagne n'arrivait pas trop à se créer d'occasion. Et c'est juste que l'Espagne a été clinique sur les premières situations qu'ils ont eues. Donc, ils ont mis un gros coup de bambou sur la tête des Français. Mais ce qui a été bien, c'est que Deschamps, bon, là, comme c'est une compétition, on va dire, où on peut tester des choses. Il a décidé de mettre un numéro 10 et tout le monde peut-être s'attendait déjà à ce qu'il blinde face à l'Espagne. Et ce qui est bien, c'est qu'il a laissé le jeu ouvert que tout le monde attendait. Donc on a eu un match assez ouvert. Après, c'est qu'il manque un équilibre entre la défense et les deux milieux défensifs. Donc c'est ce qui a fait que les déconnexions entre ces deux lignes-là ont fait que les Espagnols ont su en profiter. Et sinon, la France, dans la globalité... Ça en est quand même bien sorti à la fin grâce au changement qu'a apporté le coach. Mais je vois pas, pour moi, il n'y a pas un monde d'écart entre les deux. C'est que la France a manqué d'automatisme et de cohésion au niveau du groupe parce que la défense, déjà, c'était une défense qui n'avait jamais joué ensemble. Donc, sur ça, alors avec Clément Lenglet qui n'était pas sélectionné depuis X temps, première sélection de Kaloulou, donc ça faisait un peu beaucoup. Mais sinon, pour moi, ça a été un match assez équilibré.
La défense est aux abois. Hein. C'était très difficilement.
Très compliqué.
Parce qu'on a vu, hein, l'Espagne, dès qu'il s'approchait un peu de la surface, tout de suite, il y avait but. Hein.
Mais même après les 15 premières minutes, pour le milieu de terrain aussi, ça a été compliqué. Parce que Rabiot et... c'était qui avec Rabiot au milieu ? Et Tchouaméni. Non, c'était Tchouaméni, c'était l'Allemagne.
C'était Koné.
Koné était bon dans les phases offensives, mais dans les phases défensives, tu sentais qu'il manquait de repères, que c'est un joueur qui a l'habitude de jouer en 4-3-3. Mais après, c'est des choses à travailler. Donc, si la France se met à travailler ce système, il peut avoir des choses à faire. Hein.
Je pense aussi, Jason, qu'est-ce que tu en penses, toi, Léo ?
Déjà, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Sur le fait que l'Espagne est supérieure actuellement à l'équipe de France. Après, je pense qu'on ne peut pas omettre de notre analyse le fait que l'équipe de France était décimée. Sa défense était totalement inhabituelle, inédite même. Son milieu de terrain était, on va dire, en manque de forme. Bon, bah ça peut arriver. Maignan a été extrêmement décevant sur ce rassemblement, ce qui n'est pas forcément dans ses habitudes, en tout cas.
Ah oui, même face à l'Allemagne, bon, on y reviendra.
Moi,
mais...
je l'ai trouvé assez décevant. Il a connu une saison un petit peu galère au Milan de toute manière, donc c'est un petit peu dans la continuité, mais je trouve que généralement, en équipe de France, il est plutôt bon. Après, par contre, il y a quelque chose dont je ne suis pas forcément d'accord, parce qu'on ne peut pas en fait en parler pour l'instant, c'est le fait de... est-ce que Cherki sera titulaire ou non en Coupe du Monde l'année prochaine ? Il est arrivé dans un nouveau club, à Manchester City. Je pense qu'il va vite avoir une place très importante dans cet effectif, avec le départ de De Bruyne, avec Phil Foden, qui a connu une saison lui aussi très compliquée. Si demain il est élu, je dis n'importe quoi, il réalise une saison énorme, qu'il est élu meilleur jeune joueur de Première Ligue, par exemple, moi je vois mal Deschamps pouvoir s'en passer. Aujourd'hui, on sait déjà que, quand même on l'a vu contre l'Allemagne justement, qui n'était pas un match non plus exceptionnel, il était déjà au-dessus du lot. On l'a vu, techniquement, il est au-dessus du lot, en tout cas en équipe de France. Quand tu le compares à ce qu'il y a eu à côté, bah, tu te dis qu'il y a un monde d'écart entre ce joueur et ses coéquipiers sur certains aspects. Moi, aujourd'hui, je pense que s'il arrive à se développer sous Pep Guardiola, il va jouer la Ligue des Champions, il va jouer dans le meilleur championnat du monde, il va jouer contre un autre type de, il va jouer un autre type de football. Je pense qu'il peut avoir un coup à jouer en Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'il sera titulaire? Je ne sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, en équipe de France, ce n'est pas un profil dont on peut se passer.
Après, selon moi, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que Guardiola, avec ses recrues, il aime bien les laisser patienter un petit peu. Il leur donne rarement les clés du jeu au bout d'un mois, même les meilleurs. Donc ça ne m'étonnerait pas que les six premiers mois de Cherki, ce soit un petit peu des tests et des phases de remplaçants, titulaires, etc. Et de l'autre côté, dans ce profil-là, on va dire, de joueur offensif, il y a de la concurrence parce que tu as Olise qui brille au Bayern, qui sort d'une grosse saison. Désiré Doué qui fait aussi une saison énorme au PSG. Dembélé qui est en équipe de France dans ce profil-là de mec qui va être dans la ligne de 3, en gros, derrière l'attaquant. Donc certes, Cherki, il peut faire une super saison, etc. Mais ça n'a pas empêché... Enfin, Doué, Olise, Dembélé ont fait des super saisons. Ça ne les empêche pas de ne pas être titulaire indiscutable en équipe de France aujourd'hui.
Pour autant, je pense que, par exemple, Dembélé, lui, en équipe de France, on sait qu'il joue plus sur un côté. Je pense que Doué, il le fera jouer aussi sur un côté. Il le fait jouer, d'ailleurs, sur un côté. Olise, il joue aussi... bon, il peut jouer plus en 10, Olise, je pense, que, par exemple, Dembélé, puisque Mbappé, pour lui, il ne bougera pas de
oui,
l'axe,
mais c'est sûr.
Des champs. Alors que je pense qu'on est à peu près tous d'accord qu'il serait meilleur à gauche, qui est son poste préférentiel. Mais lui préfère visiblement jouer en pointe. Donc je pense que Cherki a un rôle. En tout cas, il a une carte à jouer pour la liste. Je ne sais plus si c'est 25 ou 26 pour la Coupe du Monde.
Ah non,
la liste, il devrait y être.
Je pense
aujourd'hui,
aussi.
Je pense qu'il en sortira même.
Moi, c'est plus dans la philosophie de Deschamps de démarrer les gros matchs de Coupe du Monde en 4-2-3-1, avec les clés du jeu à Cherki et sur les côtés Olise, Doué, Dembélé et tout pour le football. Ça, j'y crois moins.
Après, s'il fait une grosse saison, parce que comme tu as dit, le truc c'est que Doué, après les quelques mois qu'il a passé, il s'est retrouvé directement quasiment titulaire en équipe de France. Parce que depuis la demi-finale et la finale de Ligue des Champions, dès qu'il est revenu de l'équipe de France, titulaire. Donc Cherki, si il passe ce palier, peut-être qu'on ne sait jamais.
Mais en fait, après, il y a deux manières de réfléchir. Il y a la manière de Deschamps Et il y a la manière de nous, nous, observateurs de foot et amoureux de football. Moi, je suis désolé, moi aujourd'hui, si on pose la question comment j'aimerais que joue l'équipe de France, enfin en tout cas la composition de départ, parce qu'après tout est relatif, c'est un 4-2-3-1. Je pense qu'il y a des bonnes bases en 4-2-3-1. Avec, si on se concentre juste sur la ligne d'attaque, après encore une fois, je sais que ça ne se fera jamais en fait, mais pour moi, je ne vois pas de mal à mettre un Mbappé sur le banc et à mettre les trois de Paris devant. Parce qu'ils se connaissent par cœur en fait.
Ouais, il le fera jamais,
bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est un peu du foot fiction. Et mettre et Cherki en 10 parce qu'il a des très bonnes affinités. Il a fait les sélections de jeunes. Ils se connaissent très bien avec que ce soit Barcola, que ce soit Doué, etc. Et Dembélé. Et parce qu'en fait, l'alchimie, elle sera totale. Sauf que après, si on pose la question, à ton avis, Deschamps, comment il va faire jouer, machin. Déjà. Tu peux être sûr qu'il alignera jamais, je pense qu'il alignera même pas Cherki, et je pense que, qu'il alignera jamais 4 offensifs en fait.
Il renforcera son milieu, il renforcera Tchouaméni, Kone.
Après, ça dépend l'adversaire.
Rabiot. Ouais. Oui, dans les poules peut-être.
Oui, dans les poules, voilà.
Si t'es un bloc bas, tu vas avoir besoin de Cherki.
Voilà, exactement.
Oui, mais quand ce sera sérieux, moi je pense
il va passer à 3.
Contre l'Espagne, contre l'Allemagne, contre le Brésil, il aura pas le ballon.
Il va passer à 3.
Il va passer à 3 bien solide, et devant il y aura Dembélé, Mbappé, plus 1.
Pour la vitesse.
Plus 1, que ce soit Olise, Doué.
Après, il pourrait mettre Rabiot, même ailier gauche, comme il le faisait.
Avec Matuidi.
Après, il y a juste un point sur lequel t'as parlé de Mbappé, de la possibilité de le mettre sur le banc. Moi, je trouve qu'on est un petit peu dur avec lui, en tout cas sur l'équipe de France. Parce qu'en équipe de France, en fait, moi, les joueurs, je les juge pas de la même manière que je les jugerais en club. Parce que déjà, t'as deux semaines pour deux matchs, t'as des séances d'entraînement. Voilà,
et les autres, ils font comment les
autres? Mais regarde, ce rassemblement, il le termine avec 2 buts et 2 passes décisives. Qu'est-ce que t'attends de lui à ce poste-là?
Moi, ce que j'attends, mais c'est du football ce que j'attends de lui, c'est pas de buts et de passes dé. Tu mets n'importe
Deschamps,
qui à sa place,
ça,
il peut mettre 2 buts et 2 passes dé.
Si, regarde, en finale de Coupe du Monde, il fait pas une grande finale.
Ah, il fait un match qui est même beau.
Il fait pas un bon match.
Finale, elle est atroce.
Il met son triplé. Si l'équipe de France va au bout avec de la séance de tir au but, qu'est-ce qu'on retient? On retient que Mbappé a fait gagner une deuxième Coupe du Monde à l'équipe de France sans être grandiose. Et pourtant, il aura mis son triplé en... Pour moi, s'il met un triplé en finale de Coupe du Monde, bah, c'est tout ce que je retiendrai de lui.
Oui,
qu'il a été
ça,
bon,
c'est
pas
toi,
bon.
Mais moi, le footstat, moi, j'aime pas ça.
Ouais,
moi,
mais au bout d'un moment, les résultats de la sélection, c'est le résultat.
Certes, il met 2 buts de passe, mais le nombre de situations qui... Il empêche ses potes d'avoir des situations parce que lui, il joue pas juste, parce qu'il fait les mauvais gestes.
Ou même lui, il rate. Parce qu'il peut finir à 3 ou 4 passes D ou 3 ou 4 buts de plus.
C'est que certes, il fait 2 buts de passe, mais il a un nombre de situations sur le rassemblement. C'est complètement dingue.
Il peut finir à 5-5. Après, il n'y a aucune sélection qui met son joueur star sur le banc.
Non, mais bien sûr.
C'est pour ça que ça ne se fera pas.
Mais politiquement, ce n'est pas possible.
En fait, il y a tellement un chaos. Genre, il y a tellement aucune proposition dans le jeu que du coup Mbappé il fait exactement ce qu'il a fait au Real au début, surtout quand il n'y avait rien, c'est qu'il vient décrocher.
Après, je trouve il a fait des efforts quand même là.
Mais c'est là où il est le meilleur, hein.
Contrairement
quand il vient décrocher,
quand c'est le chaos tactique, c'est là où c'est ses capacités naturelles.
Parce que quand il reste en
point, j'aime pas le voir décrocher.
Quand il vient décrocher, c'est inutile.
Là où il fait perdre sa qualité,
là où il est le meilleur, c'est juste quand il y a une situation de transition où tu l'envoies sur un côté ou bien en tout cas dans un déséquilibre partiel et qu'il est sur un côté ou dans l'axe, et là il va sortir un éclair de génie. Et là, du coup,
c'est pour ça que je dis, quand il n'y a pas de tactique préparée, il n'y a pas de circuit de passe, il n'y a pas de.
Mais il ralentit le jeu quand il vient décrocher.
Position, et là, c'est là où Mbappé est le plus fort parce qu'il va avoir un ballon qui rebondit, un truc, il va accélérer et puis c'est.
Voilà, c'est ça. Et tout à l'heure, tu as dit un truc, Léo, tu as dit oui, Dembélé, il joue sur un côté, etc. Mais pour moi, Dembélé, si tu le mets en 10, enfin, si tu le mets sur un côté, donc le côté droit, tu laisses Cherki derrière l'attaquant, etc. Et Dembélé, tu le laisses se balader, et Doué qui est un peu plus sur le côté gauche. Pour moi, mais tu peux avoir tellement de possibilités parce qu'il y a une telle affinité technique entre Dembélé et Cherki qui va se faire de manière naturelle qu'en fait, Dembélé, tu peux lui laisser énormément de liberté. Sauf qu'on sait très bien que Deschamps, il laissera. Et surtout que Dembélé, en plus, fait les efforts défensif. Mais on sait très bien que Deschamps ne laissera jamais autant de liberté à ses joueurs. Et donc du coup, la Coupe du Monde 2026, franchement, je m'avance à rien si je dis qu'en fait, ça va donner la même bouillie footballistique que d'habitude. En fait.
Mais dans ce que tu
Merci.
Dis...
Excuse-moi Léo de t'interrompre. Du coup, on va poursuivre. Hein. Là, c'était sur un peu la France face à l'Espagne, en tout cas. De l'autre côté, on a eu d'autres demi. On a eu le Portugal face à l'Allemagne. Portugal qui sont imposés 2-1. Un petit sourire d'Alexandre, on t'écoute Alexandre.
Parce que pareil, mais vous avez vu l'effectif du Portugal ou pas?
Ouais.
Je pense que c'est peut-être le meilleur effectif du monde en fait. Parce qu'à tous les postes, ils ont doublé. Enfin, quasiment. Ils ont des cracks à tous les postes. Et en plus de ça, bon, on parlait des joueurs de. Enfin, on va parler des joueurs de Paris, mais Nuno Mendes, Neves et Vitinha qui marchent sur l'eau. Vraiment, c'est incroyable à les voir. Et ils sont portugais. Donc, pour moi, j'ai un problème dans l'équipe. C'est Cristiano Ronaldo, je suis désolé. Mais quand je vois les matchs, je me dis, mais il y a un tel gâchis de le mettre titulaire ou de le faire jouer 60 minutes. Quand t'as d'autres joueurs
60
qui sont
minutes
sur...
Tu veux dire 90.
Voilà, tu vois, 90. Ok, matchs, il va marquer, ok, il va truc, mais je suis désolé, moi, il y a un tel gâchis. Pour moi, il prend légèrement, parce qu'ils ont gagné la Ligue des Nations, finalement. Ils l'ont gagné, la Ligue des Nations. Mais ils pourraient produire un tel football si le gars n'était pas là. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Vraiment dommage.
Et t'aurais mis qui à sa place?
Je préfère voir Gonçalo Ramos.
Qui n'est pas titulaire au Paris Saint-Germain et qui, même là, ses dernières prestations, avec le Portugal,
personnellement,
ils sont
je préfère
très
mettre Gonçalo Ramos, qui n'est, comme tu dis, pas titulaire au Paris Saint-Germain, mais qui rentre quasiment à tous les matchs et qui a gagné la Ligue des Champions, plutôt que Cristiano Ronaldo, qui a 40 ans et qui est titulaire à Al Nassr.
Non, mais tu me dis, il gagne la Ligue des Champions. Oui, il gagne la Ligue des Champions, ça en fait. Même si on sait
qu'il a joué en
finale. Il a joué, on n'a pas dit. Oui, il a participé à la finale, bien évidemment, comme Mayulu a participé à la finale, tu vois.
Non,
et Mayulu a marqué aussi.
Mayulu a marqué aussi. Gonçalo Ramos, franchement, dans son rôle.
En deuxième partie de saison, c'est assez compliqué quand même. En deuxième partie de saison, il a joué pas mal de matchs, Gonçalo Ramos, où il marque pas, où c'est assez compliqué. Il est obligé d'arracher des balles de penalty. Moi, je veux bien entendre que qu'on puisse remplacer, mais un attaquant, qu'est-ce qu'on lui demande à un attaquant?
De marquer.
Non,
de marquer.
Ça, vois, ça,
à partir
moi,
du moment où il marque.
Ça.
Non mais excuse-moi, mais c'est la vérité.
Je suis pas d'accord.
Surtout, non
mais
attendez,
il met
attendez.
Un tapin, donc son match il est réussi.
Voilà.
Non,
tu vois, c'est ça.
Non, on vous dit pas qu'il met un tapin et son match il est réussi, mais attendez.
Il fait là, plus aucune différence individuelle la... et là il fait plus aucune différence balle au pied.
Il y a beaucoup d'attaquants qui font pas de différence individuellement, mais qui marquent.
Moi je pense qu'on leur demande
c'est pas dans les critères de tous les attaquants.
C'est pas dans les critères de tous les attaquants. Aujourd'hui à 40 ans, j'en vois
mais
pas
tu
beaucoup.
Tu peux être champion du monde avec Cristiano en neuf. Moi j'y crois pas.
Impossible, c'est impossible.
J'y crois pas une seconde.
Avec Gonzalo Ramos, oui, t'y crois.
J'y crois pas plus. J'y crois pas forcément.
Moi si tu me dis ça, je veux bien le croire. C'est juste. Hey, t'as un mec comme Isaac, mais je discute même pas avec toi. Tu vois, t'as un mec comme Isaac, demain tu me dis
t'as
Isaac ou même d'autres attaquants phares, je discute même pas avec toi.
Mais
à ce poste-là, à part Gonçalo Ramos, t'as qui?
Mais tu peux mettre un faux numéro 9.
Qui?
Je sais pas, moi personnellement.
Non, mais parce qu'on parle de doubleur à tous les postes. Mais là,
Félix.
Faut arrêter deux secondes. Non, mais faut arrêter deux secondes.
Bernardo Silva, moi ça me choquerait même pas de le mettre là.
En neuf, faut arrêter deux secondes. Mais t'as vu la saison de Bernardo Silva?
Mais vous avez vu,
il faut arrêter deux secondes.
Regardez les matchs de Cristiano Ronaldo ou pas?
Attends,
mais est-ce que vous.
Attends,
t'as regardé les matchs?
Là, on n'est pas en comparaison. On n'est pas en train de comparer là, Alexandre. On est juste en train de donner un point de vue.
Voilà,
et là, toi,
ça.
T'as dit, on n'est pas en train de comparer.
Je pense que tu peux à la fois dire que Cristiano Ronaldo, c'est pas bon, sans
exactement.
Pour autant dire que quelqu'un d'autre serait meilleur, parce qu'il n'y a pas grand monde.
C'est
là où je ne suis pas d'accord avec toi sur un point au Portugal, c'est que tu disais, c'est le meilleur effectif.
Ah,
peut-être le meilleur effectif du monde, les postes sont doublés. Moi, si tu as des postes doublés, tu ne mets pas João Neves latéral droit, tu vois, par exemple.
Devant, c'est ultra faible.
Et devant, c'est pas. Moi, je veux bien, on parle de Francisco Conceição, c'est un bon joueur.
Mais jamais il est dans les 23 de l'équipe de France,
Conceição.
Évidemment. Jamais dans les 23 de l'équipe de France.
Regarde la saison de la Juve, si c'était que des cracks.
Là, je t'ai parlé
pour moi, les cracks, les vrais cracks, ce sont les joueurs qui jouent au PSG. Ça, je suis d'accord.
Je pense que les milieux, c'est des cracks. Les milieux portugais,
quand ils sont alignés au milieu.
Oui,
après l'attaque, c'est pas des cracks. L'attaque, c'est pas des cracks. C'est un bon joueur, mais c'est pas un crack.
Diogo Costa, c'est un bon joueur.
Léo, c'est un bon joueur, mais irrégulier.
Mais derrière, ce sont des bons joueurs, encore une fois.
Oui, j'ai dit l'un des meilleurs. Mais
Ignacio, de.
Mais t'as dit que tous les postes étaient doublés.
Quasiment tous les postes sont doublés.
Mais ils sont doublés n'importe quel camp.
Des centrales.
Non, mais non.
Des centrales, c'est.
Moi, demain,
j'ai dit Ruben Dias.
T'as Ruben Neves titulaire en 2025 au Portugal. C'est
moi, j'ai le choix entre les filles de l'Espagne ou celui du Portugal. Je prends celui de l'Espagne tous les jours.
Oui, tous les jours. Mais en défense centrale, le Portugal, ils ont leur remplaçant, c'est des joueurs du championnat portugais.
Même le titulaire, c'est Ignacio. C'est Ruben Dias avec
Ignacio. Même
de...
la charnière, c'est pas non plus.
Mais
il y a Ruben Dias.
Et la charnière
après...
en Espagne, elle est bien?
Bah oui.
Ouais, c'est quoi?
Mais c'est
le Normand
et Laporte.
T'as aussi Coubarsi,
le champion d'Europe.
Le Normand, Laporte, c'est
champion d'Europe.
En sachant que t'as des assez de
t'as Hussein, Inigo Martinez.
T'as Hussein aujourd'hui, Hussein, ça
fait Inigo Martinez, il veut pas l'appeler.
Coubarsi,
il veut pas appeler Inigo Martinez.
Comme il veut pas appeler Asensio. T'aurais plus de chances d'appeler Asensio qu'il n'y a Inigo Martinez.
Après, je t'avoue, Asensio, il y a des
problèmes
extrasportifs.
Oui, non, mais on parle de football. Là, on parle pas d'extrasportif. Je te parle footballistiquement.
Mais non, mais là, on parle
si
de,
tu prends pas,
on parle
non, mais, oui, mais moi, je te parle de footballistiquement. Si tu prends pas un joueur comme Asensio, tu peux pas prendre Inigo Martinez.
Je trouve surcoté Asensio, alors qu'Inigo Martinez, il fait une saison qui est absolument incroyable.
Je suis d'accord avec toi, Zorro.
Ouais, je pense aussi. Moi aussi. Je pense que Asensio, il va goûter au banc avec l'arrivée de Hussein Naï.
Je pense aussi, oui.
C'est très limité.
C'est
un autre.
Moi, j'aimerais bien voir
très limité.
Je pense qu'Asensio est meilleur que Hussein.
Non, je dis pas qu'il est meilleur que Hussein, mais moi, je le trouve très bon. Et il a fait une saison défensive.
Je pense que c'est un bon défenseur. Je pense que c'est un guerrier.
On l'a jeté dans le bain avec une équipe autour de lui qui était pas.
Mais il a ce côté guerrier.
Des latéraux.
Il a ce côté guerrier où il va aller faire des tacles.
Je vois, ça l'a comparé à Ramos et tout. Mais
pour moi, c'est pas un grand défenseur. Alors que Hussein, il a le potentiel d'être un grand défenseur.
Le recrutement de Hussein, il est pas anodin.
Bien sûr.
Bien sûr. Bah après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi
tous les blessés. D'ailleurs, Xabi Alonso, si Hussein il est là, c'est parce que Xabi Alonso il l'a demandé aussi. Hein, donc je pense que lui a vu.
Mais je pense qu'à terme, avec tout le monde, on va juste Hussein Rudiger et puis voilà.
On va juste recentrer, à part Cristiano Ronaldo, parce que sinon on va débattre jusqu'à demain. Sur le Portugal qui se sont imposés face à 2-1 face à l'Allemagne et avec un but de l'ancien, on va dire ça comme ça. 2-1. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jason?
Bah franchement, ils m'ont choqué. Ils ont fait une bonne prestation. Ils ont été un peu dominés au début. On s'est dit, bon, l'Allemagne, peut-être que. Mais au final, l'Allemagne tombe toujours dans les mêmes travers. C'est toujours la même chose. J'ai l'impression de voir le Bayern à certains moments. Ils ont besoin de 70 000 occasions pour mettre un but.
On dirait Dortmund un peu.
Et cette équipe, elle me rend malade. Tu les vois, t'as, ça déboule dans tous les sens.
Sur le papier, tu vois, ça te fait saliver.
Mais au final, le score, c'est toujours le même.
Parce qu'ils n'ont pas de numéro 9, en fait. Et ça fait des années et des années qu'ils sont pas un vrai bon numéro 9.
Ouais, pourtant, ils avaient Fulcrum qui pouvait faire l'affaire. Dans ce genre de truc, on ne demande pas à un attaquant qui fait des différences individuellement, comme tu le disais. Mais par exemple, pour moi, t'as un joueur comme Cristiano côté allemand. Juste un mec qui finit, parce que t'as des ailiers, t'as tout l'effectif autour qui vont travailler. Et on te demande juste un truc, un jeu de tête, t'es dans la surface, on te demande un jeu de tête, et être efficace quand on te la met dans les pieds, tu la mets en une touche dans les cages. C'est ce qu'on te demande. Fulcur, quand il y va et qu'il marque beaucoup de buts avec l'Allemagne dernièrement, c'est ce qu'on lui demandait. On lui mettait des centres, il mettait la tête, on lui mettait des balles devant la surface, il mettait le pied plat du pied, il y avait des buts. Et ça fonctionnait.
Au final, il a rien fait, Fulcur.
Après,
il a été blessé. Mais tu vas me dire, il a rien fait. Il a marqué beaucoup de buts côté allemand. C'est sur ces derniers matchs,
après,
il avait marqué beaucoup de buts.
C'est pas le seul problème en Allemagne, tu vois. Le Roi Sané, moi je trouve que c'est un joueur.
Non, mais lui, c'est
pas un joueur. On va en parler.
Le Roi Sané de Schalke, moi je me souviens, la première fois que je l'ai vu, je
même
crois
de City.
Le premier truc que j'ai vu, lui, je crois, contre le Real Madrid en Ligue des Champions, il avait inscrit un triplé pendant une défaite 4-3 de Schalke.
Je m'en souviens, ouais.
Mais le Roi Sané là et le Roi Sané d'aujourd'hui, tu te dis comment ce joueur il a pu évoluer. Oui, le City de 2017-2018, tout ça. Mais après, je pense que l'Allemagne a aujourd'hui leur numéro 9 d'avenir, je pense que c'est Voltemad, qui fait un très bon euro d'ailleurs, qui enchaîne les buts. Après, les jeunes.
On l'a vu, c'est encore léger.
On avait beaucoup misé sur Timo Werner qui était étincelant à Leipzig.
Là, tu me sors un nom.
Bah, c'était un à l'époque de
l'Allemagne. Il avait marqué plus de 30 buts entre eux.
Bien sûr. Mais en fait, je pense que l'Allemagne, il y a un problème de complémentarité des profils, il y a un problème d'effectif. Si on peut faire un petit peu un parallèle, je pense que moi, ça me fait penser à l'Italie. L'Italie qui est catastrophique, même encore pire que l'Allemagne d'ailleurs. Il y a un creux générationnel terrifiant en Italie. Quand tu regardes l'effectif, tu te demandes qui sont ces joueurs. Aujourd'hui, tu te demandes même s'ils vont se qualifier en Coupe du Monde. C'est incroyable. Non, l'Allemagne, pour moi, c'est une équipe aujourd'hui qui est vieillissante, qui a des joueurs de talent. Hein. Kimmich, qui fait une très bonne saison avec le Bayern. Mais malheureusement, il ne peut pas être tout seul. Quand tu vois même Serge Gnabry, j'aime bien Serge Gnabry, mais bon, c'est un bon joueur, quoi, mais c'est pas classe mondiale.
C'est un bon joueur quand il est tout le temps à l'infirmerie.
C'est pas un joueur de classe mondiale.
Après, t'as quand même du Moussiala, du Wirtz.
Ça, c'est des créateurs, mais autour, après, il faut un finisseur. Même si c'est un attaquant médiocre qui est capable de marquer, il en faut. Sinon, ça concrétise pas.
Tout ce qui rate, c'est fou.
Oui, parce qu'ils n'ont pas de tueur.
Il peut y avoir 4-0.
Ils n'ont pas de tueur.
Regarde le nombre de face-à-face qu'ADMI rate. Si ça va vite, tout, c'est de la jeunesse, la fougue. Après, le dernier geste, même Voltemet, là, tu le vois avec les U21, le gars, c'est un tueur. Mais quand tu le vois sur les matchs avec les grands, devant les buts, il tire sur le goal.
Ouais. ADMI, ça me fait penser à une copycat de Leroy Sané. Dans pas longtemps, il sera comme ça à peu près. Non, mais parce que dans le sens où c'est un jeune, mais s'il progresse pas devant le but, ça sera catastrophique.
Moi,
je me rappelle des matchs contre le Real Madrid.
Il dit 4 joueurs, il va rater.
Je pense que il va taper sur le poteau. Il y a personne dans les cages, c'est vraiment.
Non, lui, ça fait des années, il est comme ça. Parce qu'en fait, on s'est fait avoir quand il était à Leipzig. Non, c'était pas Leipzig, à Salzbourg. Quand il était à Salzbourg, en fait, tu voyais que les matchs de Ligue des Champions. Tu voyais le gars, il prenait tout le monde de vitesse.
Il faisait son salto après en célébration.
Il ratait 5 face à face, il en mettait 2. Tout le monde se disait, bon, c'est un putain d'attaquant, truc. Mais au final, quand tu le vois de plus près. Non, c'est un mec qui rate 70 occasions avant de mettre un but.
Après, il peut y avoir des déclics. Hein. Dembélé, on parlait exactement comme ça avant cette saison-là.
Tout le monde disait pareil. Ouais, mais Dembélé,
c'est pas un tueur.
Ouais,
ah,
mais Dembélé, c'est un plus gros potentiel que ADEMI.
Il a toujours eu.
Bien sûr.
Dembélé, on est toujours là. Peut-être. Ah non, pas cette saison. Peut-être. Ouais, non.
D'ailleurs, moi, j'attends de voir la saison prochaine, Dembélé.
Ouais, mais c'est bon, là, il a prouvé déjà cette année. Il a du crédit un peu.
Tu vois, tu compares Adeyemi à Leroy Sané. Pour moi, Adeyemi, il n'aura jamais le niveau de Leroy Sané.
Du certain, c'est pour ça que j'ai dit. Jamais. Oui, c'est pour ça que j'ai dit non. Une copycat de plus tard en plus. C'est même pas de genre avant. C'est
non, mais c'est
tard.
Vrai que l'Allemagne, il y a une génération vieillissante. Quand tu vois la saison de Gundogan, alors la saison dernière au Barça, il avait été pour moi dans les 3 meilleurs joueurs de la saison. Ouais. Il est revenu à City, il est remplaçant. On le voit pas. Je crois qu'il a marqué un but cette saison. Et pendant,
en fait, moi, je pense
à la dernière journée, t'as des
sa plus grosse erreur, c'est d'avoir signé au Barça.
Non.
Bah, vu la saison qu'il
a signé au Barça. Non, une équipe comme ça, tu peux pas signer dans une équipe comme ça.
Parce qu'il avait été bon.
Oui, mais ils ont été très bons, mais qu'est-ce qu'ils ont gagné ?
C'est son salaire.
Rien.
Non, c'est juste qu'il est parti. Parce qu'imagine, là, il était resté à Barcelone. Non, il est parti parce qu'il y avait des histoires d'inscription pour d'autres joueurs, etc.
Tu peux pas prendre un joueur comme ça et au bout d'une saison, tu dis, il faut que tu partes parce qu'il y a des trucs d'inscription. Des trucs d'inscription. Mais non, tu vires n'importe qui, mais tu prends pas un joueur de telle qualité qui vient de gagner une championne. Tout, etc.
Je me souviens du dossier, ça s'est pas passé comme ça.
Il y avait des problèmes
dans le vestiaire aussi, parce qu'ils ont préféré miser sur un autre. Enfin,
mais cette année, Gundogan est titulaire dans le milieu du Barça ?
Jamais.
Non, aujourd'hui, non.
Il a rien perdu.
Aujourd'hui, non. Mais quand il faisait
5 ou 6,
c'est faux. Et en fait, vous pouvez pas prendre un joueur qui était très fort l'année dernière, vous l'envoyez à City, fait une mauvaise saison, et là vous dites, mais lui, en fait, il serait pas titulaire dans le milieu du Barça.
Parce que je pense qu'il serait resté, les autres n'auront jamais joué. Comme Yamal aujourd'hui, il aurait jamais joué au football si Dembélé serait resté au Barça.
Bien sûr, bien sûr.
Frenkie de Jong, il démarre l'année pas forcément titulaire, et petit à petit, il se fait sa place.
Mais Frenkie de Jong,
il était déjà titulaire, c'est juste qu'il est blessé. Oui, il est blessé.
Il démarre pas dans le 11 parce que Gundogan n'était pas là.
Mais si Gundogan il était là, tu sais pas, vu que Frenkie de Jong l'année dernière il était moyen, peut-être que Gundogan il a pris la place de Frenkie.
Gundogan, je pense qu'il a pas le coffre physique pour ce que demande Flick, en fait, tout simplement. Par rapport à un Pedri.
En plus, il le connaît,
ils ont déjà truqué. Il a déjà brillé côté allemand avec Flick.
Tu peux connaître un joueur et qu'il ne brille pas 5 ans après, ou je sais plus combien de temps après, que tu l'es connu, tu vois, en sélection.
Non, enfin, en tout cas, c'est trop. Tu peux pas dire ça comme ça.
Mais du coup, tu peux pas dire le contraire non plus.
Non, mais moi j'ai
ça se trouve qu'il aurait même pas commencé titulaire la saison sous Flick et
on ne sait pas, en tout cas on ne saura jamais.
Mais en tout cas on va poursuivre, hein. Et là on va parler de la finale, bien évidemment. On va commencer par la petite finale, si vous voulez, hein. La petite finale, la France qui se sont imposés 2-0 face à l'Allemagne. C'est ce qu'on disait, on reste dans le même conducteur un peu. L'Allemagne qui avait des occasions, hein, qui ont eu énormément d'occasions, mais qui butaient à chaque fois sur Magic Maignan et qui se sont fait punir par Mbappé, qui loupait aussi, mais qui a fait un geste décisif, qui a créé son action tout seul et qui a mis son petit but, suivi de beaucoup de ratés, mais une deuxième, en tout cas une passe décisive pour Michael Olise, qui n'avait juste à ajuster le gardien. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce France-Allemagne ?
Bah après là, ça a été, j'ai l'impression que c'était le match de l'Espagne-France, mais c'était Allemagne-France. C'est l'Allemagne qui a eu toutes les situations et que la France a été clinique. Mais début de match, que des frayeurs. Tu te dis, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'équipe en face. Et malgré le bon match, je trouve, de Badé, qui peut créer quelque chose, une surprise dans la défense centrale, parce que Konaté, ces derniers temps, c'est pas
non,
trop ça,
trop
on
juste,
est
ouais,
en équipe de France. Il se plaint de ne pas être titulaire, parce que souvent, c'est Upamecano, Saliba. Mais Loïc Badé, franchement, je pense qu'il vient toquer à la porte. Et le début de match était un peu calamiteux, la France un peu en panique, ça avait du mal à ressortir les ballons, les Allemands se créaient beaucoup de situations, mais dès que le temps fort allemand est passé, les Français arrivaient quand même à se procurer des contre-attaques, et il y a un moment, comme on le critique souvent, mais un joueur comme Mbappé qui a réussi à faire la différence et à délivrer son équipe.
Merci Jason. Léo ?
Ouais, moi, c'était pas un match exceptionnel. J'ai trouvé Cherki bon, encore une fois.
Il a perdu beaucoup de ballons. Hein.
Ouais, mais sans lui, il avait pas de... enfin, il faisait le circuit de passe. À partir du moment où il est un petit peu seul.
Dans le micro, s'il te plaît, Léo.
À partir du moment où il est un petit peu seul, je pense que c'est normal qu'il perde des ballons. Et tu vois, on parlait de Mbappé, il a mis un but, une passe D sur ce match. Moi, je retiens plus sa passe D parce que justement, il aurait eu l'occasion de tirer s'il l'avait voulu. Alors, est-ce qu'il y aurait eu but ou pas, on ne saura jamais. Mais j'ai bien aimé le fait qu'il serve Michael Olise.
Est-ce qu'il avait le choix après ses loupés? Il venait de rater un face-à-face. Est-ce que,
mais de là,
parce que
par
tu
exemple,
loupes
regarde,
ce face-à-face
dit...
encore et derrière, tu te prends un but.
Mais regarde, on dit ça, mais... en ce moment, il essaie d'être plus altruiste en équipe de France. Quand on voit le match face à l'Espagne, à un moment, quand il part au but, moi, pour moi, il doit tirer et il cherche à faire la passe en retrait. Pour te dire qu'il commence à essayer d'être moins égoïste parce que d'autres personnes commencent à pousser dans l'effectif.
Après, je crois qu'il n'a pas mis beaucoup de passes décisives cette saison, contrairement à ce qu'il pouvait faire cette dernière saison au Paris Saint-Germain. Je crois qu'il en a mis 6, il me semble. Ce qui est faible, du coup, pour lui, puisque c'est un bon passeur. Après, pour revenir sur le match, ouais, Mike Maignan, là, par contre, il fait des arrêts décisifs. Des arrêts plus décisifs que spectaculaires parce que Adeyemi, il lui tire dessus au final. Voilà. Badé a fait un bon match. Après, de là à dire qu'il peut chambouler l'ordre établi de la défense française, je pense pas. Parce que Upamecano, pré-blessure au Bayern, était très très bon. Konaté a fait une grande saison à Liverpool. Il y a quand même du boulot pour qu'il puisse espérer.
Après, le
ça.
Truc, c'est qu'en équipe de France, Konaté, c'est compliqué. Toutes les chances qu'on lui donne, il les rate.
Ouais. Non, pas toutes quand même.
Bah, ces derniers temps, il fait pas des bons matchs. Hein.
Moi, je suis d'accord. Konaté, dès qu'on lui a laissé sa chance en équipe
de France, temps,
il a beaucoup réclamé parce qu'à l'Euro, il était pas content d'être remplaçant, d'être numéro 3. Et quand on lui a laissé sa chance, ça n'a pas été
la
bon.
La Croatie, ça n'a pas été
Croatie,
bon.
Et il saute au retour d'ailleurs.
Voilà,
et au retour, tu fais un bon match.
Là, ça n'a pas été
donc,
bon aussi.
Après, ce n'est pas que de sa faute, mais il est toujours dans les mauvais coups, malheureusement. Alors qu'à côté, Upamecano, je ne suis pas le plus grand fan d'Upamecano.
Moi non plus.
Il en a fait quand même un.
Récemment, quand il joue en équipe de France.
Non, mais en équipe de France, carton rouge, tu sors truc, il en a fait.
Récemment, en équipe de France, entre son euro qui est très bon. Son match, ah si, son euro est excellent.
C'est
un des meilleurs joueurs français.
Il est excellent.
Demain, tu dois démarrer une compétition, tu mets Konaté dans les deux derrière.
Je te dis pas que je mets Konaté, je sais pas, mais je me pose la question. Moi, je le mets pas d'office.
Je suis plus Konaté, mais d'après ce que je vois, il m'a quand même déçu. Et Upamecano, il a quand même un bel euro derrière lui.
Après, là, mettre Konaté avec l'anglais.
Mais en vérité, dans tous les cas. Konaté devait montrer que c'était lui le patron de la défense.
Là, il avait l'occasion.
Et lui-même, il faisait des conneries.
Ah, mais tu vois, quand, je sais pas, quand t'arrives et tu vois que déjà ton coéquipier, à chaque balle, à chaque prise de balle, Yamal, il passait devant Clément, il le regardait, il faisait ça.
Ça n'empêche pas que toi, tu dois faire une prestation similaire.
La Croatie jouait avec Saliba et c'était pas mieux. Hein.
Ouais, c'est vrai. Donc,
après, personnellement, moi, ce qui m'inquiète plus sur l'aspect défensif, ce sont les frères Hernandez. Parce que ni l'un ni l'autre. Alors, Théo, j'ai adoré Théo. Enfin, je pense que n'importe qui.
On l'a adoré 6 mois, Théo.
De latéral.
5 mois et demi.
Mais Théo, c'est une bombe sur un côté. Tu vois, c'est un mec. Mais là, on sait pas où il va aller. Il va quitter Milan.
Bah, c'est pour ça
que
je préfère Digne, moi, perso.
Comment
je préfère avoir un mec comme Digne que.
Ah, moi, je préfère Digne.
Digne, tu sais qu'il va te faire entre 4 et 6 sur 10.
Digne, c'est un joueur très sous-côté.
Ça va être solide.
Digne, c'est un joueur très sous-côté qui est parmi les top latéraux gauche depuis plusieurs saisons en Première Ligue. Titulaire à Aston Villa.
C'est pas Marcelo ou Jordi Alba, mais tu sais ce qu'il va t'apporter et il te l'apporte. Il se trouve jamais.
T'es jamais déçu.
Il se trouve jamais.
En plus, sur les coups de pied arrêtés, il est bon, il a marqué le coup.
Il est moins offensif que Théo, mais je pense que c'est moins dérangeant en équipe de
France.
Avec
les ailiers qu'on a, c'est ce qu'il faut, avoir des mecs derrière qui restent en place.
Tout à fait. Et par contre, Lucas Hernandez, c'est triste pour lui, mais ce qu'il propose cette saison, quand je le vois jouer au PSG, voilà, sur ses post-blessures, on va dire.
Ah, même des entrées en Ligue 1, il était mis dans le
parce que c'est difficile.
Moi, je pense qu'il est encore en équipe de France parce qu'il s'appelle
Moi, je pense qu'on peut le juger à partir de la saison prochaine.
Parce que c'est quand même un bon défenseur, Lucas Hernandez.
Ouais,
Lucas
c'est un bon défenseur, mais il sera pas titulaire au PSG l'année prochaine.
Et là, même, on le met sur le côté. Là, on le met sur le côté.
Ah, mais au PSG, il jouera ni dans l'axe,
la charnière. Il jouera nulle part.
La charnière, je peux pas la bouger.
Ouais, ouais, bien sûr.
C'est pour ça qu'on le met sur le côté, c'est pour histoire de lui donner un peu de temps de jeu. Mais par exemple, au Paris Saint-Germain, Pacho Marquinhos, ça bougera pas. Ah, moi, là, j'ai vu qu'il cherchait un défenseur central.
Mais axe droit, du
de
coup.
De Bournemouth.
Ouais. Il cherche un axe droit. Ouais, voilà, pour jouer avec Pacho, mais Pacho, il bougera.
Pour que le passage se fasse doucement entre Marquinhos et le nouveau défenseur. Mais sinon, Hernandez, il rentre dans la rotation maintenant.
De toute façon, même là, Marquinhos, je pense, il se dit j'ai pris de la Champions.
Ouais, oui, c'est bon, c'est fini. Il va rester un an, et puis il ira
en Arabie Saoudite
ou en MLS.
Ah,
tu vois, oui. Ou un retour au pays, bon, parce
revenir au Brésil.
Il y a beaucoup de Brésiliens qui aiment bien revenir au Brésil.
Il a quel âge encore, Marquinhos?
32,
je crois. 31, il est pas vieux, ouais.
Non, il a 32. Est-ce qu'il a atteint les 30?
Il a 32, ouais, en plus quand même. Il a 32, je crois.
En fait, j'ai tellement,
je dirais que c'est un 94.
J'ai tellement ce souvenir de Marquinhos innocent qui vient, qui s'est pas aligné deux mots en français, qui joue. Ouais, il a 31 ans, il a eu 31 ans le 14 mai.
Oui, il est encore jeune.
Ouais, 31 ans le 14 mai.
Ouais, donc,
mais
après, ça fait partie des mecs aussi qui ont commencé très très jeune. Ouais, ils jouaient au top niveau déjà à 17-18 ans. Ouais, donc ça m'étonnerait pas que sa carrière soit sur le déclin déjà à 32-33, parce que 15 ans au top niveau, c'est déjà monstrueux. C'est comme on a vu un Eden Hazard qui avait un peu ce profil de carrière aussi. Très jeune, très haut, 17 ans.
Après, aussi psychologiquement, avec toutes les choses qu'il a vécues au PSG.
Là, t'as atteint le but de ta vie, c'est bon. Oui.
On va poursuivre avec la finale. Le Portugal qui se sont imposés au tir au but face à l'Espagne. Quelles sont vos réactions?
Je parlais, la finale, elle m'a un peu surpris, parce que bon, je pensais que l'Espagne allait gagner finalement. Mais après, Yamal, il est passé à côté de son match, il l'a raté. Et pareil pour deux individualités de espagnoles. Après, ils ont gagné au tir au but, quoi, le Portugal. Donc, une victoire au tir au but, c'est toujours un peu particulier. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que c'est de revenir de manière plus globale, en fait, sur la Ligue des Nations. C'est que je vois plein de... Il y a des Portugais qui l'ont fêté comme c'était. Hein. Il y a un Euro, une Coupe du Monde. Après, libre à eux, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que, pour moi, cette compétition, en fait, elle a pas grand intérêt, en fait. Elle a pas grand intérêt et...
Ah, mais quand tu vois maintenant que les autres pays la jouent à fond... Ça commence à avoir de l'intérêt. La première, il y a que la première où on disait ça n'a pas d'intérêt, etc.
Parce que même quand la France l'a gagné, donc la deuxième édition, ça n'a pas fait grand-chose.
Ouais, mais nous,
en France, hein.
on sortait d'une Coupe du Monde.
Ouais, pourtant, t'avais Benzema.
C'est pour
et
ça.
Tout, hein,
mais nous, on sortait d'une Coupe du Monde et d'une prochaine Coupe du Monde. On était excités de voir la prochaine Coupe du Monde. Nous, on se disait juste, la Ligue des Nations, c'est une préparation. Mais c'est pour ça, c'est parce que nous, on était dans ce sentiment-là. Mais d'autres gens qui sont dans d'autres pays, parce qu'on a vu là le Portugal, même des Portugais qui sont allés faire la fête sur les Champs-Élysées. Mais ça dépend, eux, ils ne sont pas dans la même attente que nous.
Parce que le Portugal, t'as jamais gagné la Coupe du Monde.
Exactement.
Tu prends chaque trophée qu'il y a à prendre.
Exactement.
Un petit peu.
T'es pas dans ce truc-là.
Les Espagnols, je pense qu'ils avaient moins d'intérêt à la gagner.
L'Allemagne l'aurait fêté. Moi, je pense que l'Allemagne l'aurait fêté.
Chez eux.
Voilà.
C'était chez eux.
Déjà,
aussi.
C'était chez
et
eux.
C'est une génération qui n'a pas gagné.
Et l'Allemagne, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné quelque chose.
Mais l'Espagne, ils ont pris l'Euro l'été dernier. Je pense que là, la Ligue des Nations.
Ouais, bon, c'était un bonus.
C'est bien s'ils la prenaient, mais ils vont bien dormir la nuit quand même. Ça va aller.
Mais après, en question de Yamal, je pense pas que Yamal ait raté son match. Je pense que c'est Nuno Mendes qui a été tellement bon.
Et il a été tellement bien pris collectivement aussi.
Carrément,
parce que
Yamal, tu dis Nuno Mendes, mais c'était à 2-3 quand même.
En fait, lui, à chaque fois.
Mais individuellement,
il a tellement bien bossé son plan. Dès qu'il avait la balle, tu avais les deux milieux qui collaient. Il était 1 contre 3 à chaque fois. Après, c'est du coup les autres qui auraient dû en profiter. Parce que s'ils sont 3 sur Yamal, c'est qu'à côté, il y a des espaces pour d'autres mecs.
Ouais.
Mais Nuno Mendes a fait un super match, c'est clair. Mais il ne faut pas penser que c'était du one-to-one sur le terrain.
Il y a eu des duels quand même.
Il y a eu beaucoup de one-to-one. Parce que pour moi, les duels qu'ils ont joués, c'était one-to-one. Pour moi, les duels qu'ils ont joués. Non, il y en a beaucoup qui ont joué one-to-one. Il y en a beaucoup qui ont joué one-to-one. Parce que pour moi, il y en a, ils essaient de le faire passer en mode oui, il y a eu 3-4 joueurs en plus.
C'est quoi pourtant un one-to-one?
C'est un contrat. Moi, je te dis juste, tu sais pourquoi les gens ils disent beaucoup que il y a eu un genre beaucoup de joueurs directement et que c'était pas vraiment un one to one.
Parce
que
tu voyais, mais en gros,
je t'explique, c'est parce que tu vois la pression en fait les défenseurs qui se préparent à se dire si il passe Nuno Mendes sur ce côté-là ou là, on anticipe. Mais ça reste quand même un one to one. Faut déjà le passer pour arriver aux autres. Et la plupart du temps, il passait pas Nuno. Nuno lui récupérait la balle.
J'ai vu Yamal plein de fois arriver et revenir sur ses pas.
Mais
parce que s'il passe, il y a un gars qui le couvre.
C'est
pour moi, il y a
pas
très
eu... proche.
Si on regarde le nombre de duels, je suis pas sûr que Nuno Mendes ait gagné 15 duels dans le match.
Non,
je pense qu'à la fin,
il en a gagné au moins 4-5 qui ont été déterminants dans la tête à Yamal.
C'est là que tu vois la puissance de Nuno Mendes. Il en a fait combien vraiment dedans.
15 duels, c'est que c'est énorme.
Ouais, mais 15 duels, ça n'a jamais existé. C'est pour ça que je dis 4-5, c'est déjà beaucoup. Toi, tu me dis 4-5, mais 4-5, c'est déjà beaucoup en comptant les fois où il fait la passe, où il repart en arrière, ça compte pas.
Mais bien sûr que ça compte pas.
C'est pour ça que je dis 4-5, c'est déjà énorme. 4-5 prises de balle où tu lui récupères la balle proprement, sans faute, sans truc, faut le faire quand même.
Mais par contre, justement, on parlait donc de Lamine Yamal qui a été bien pris par Nuno Mendes, et toi tu parlais justement que s'il y a des prises à 2, à 3, ça libère des espaces à gauche. Enfin, sur tout le terrain, en fait. Mais logiquement, je trouve que... Et c'est là que, pour moi, le coach, il s'est un peu trompé, en fait. C'est qu'il a pas pris Baldé, en fait. Et quand tu prends pas Baldé, ça veut dire que tu te prives d'un contre-attaquant. Et donc, du coup, tu te prives de... Parce que Cucurella, il est gentil.
Mais, ouais, mais c'est le latéral
confirmé
de l'Espagne.
Ouais, ça, par contre,
il a fait toutes les poupées avec eux.
Non, moi, Cucurella, j'ai un contre lui. C'est un bon latéral gauche. Déjà, de base, qui n'est pas latéral gauche d'ailleurs, mais c'est un bon latéral gauche. Mais tu te prives d'un mec comme Alejandro Baldé qui revient de blessure, il connaît par cœur Yamal,
tu peux pas le mettre à la place.
Ouais, c'est qu'il l'a pas appelé du tout.
Comme et pour il a, moi, il y en a d'autres.
Tu mets Baldé à gauche, en fait, Baldé il t'apporte tellement offensivement que du coup ça contrebalance avec Yamal, c'est ce qui passe au Barça. Ça contrebalance avec le côté droit et le côté gauche. Alors que là, on le voit, vous l'avez vu, que ce soit avec le Barça ou que ce soit avec l'Espagne, à chaque fois, c'est envoie le ballon à Yamal et voilà, parce que Nico Williams en un contrat, c'est quand même un peu moins bon que Lamine Yamal.
Oui, mais c'est très bon. Moi je pense que c'est sous-côté Nico Williams,
il a besoin de beaucoup d'espace.
Moi je pense que côté Espagne, il minimise beaucoup.
En fait, la différence entre Yamal et Williams, c'est que Yamal, il a une palette qui est grave élargie, tu vois. Nico Williams, pour se mettre sur une position de frappe, il lui en faut beaucoup plus, alors que Yamal, c'est en deux touches, il va se mettre sur une position.
C'est pas le même toucher.
Oui, bah oui, mais ce que je veux dire, c'est
plus efficace, Nico. Nico est largement plus efficace, il marque plus de buts.
Non.
Nico,
sa saison, elle est horrible.
Non.
Ouais, c'est vrai qu'il fait une mauvaise saison.
En Espagne, moi je te parle là avec l'Espagne, on est dans.
Ah, il est clutch. L'Espagne,
il marque au bon moment. Il marque.
Après, on parle pas du même calibre de joueur quand même, je pense.
Oui. Mais après, il a quand même des grosses qualités.
Il a des grosses qualités, bien sûr.
C'est un joueur demain qui peut concurrencer Yamal au Ballon d'Or, moi. Je pense que demain, Nico Williams, c'est le futur. Oh oui, s'il progresse, demain il va au Barça, il progresse. Moi je pense que si.
C'est pas cette catégorie.
C'est un Pedro, un truc comme ça, tu vois. C'est des très bons
joueurs collectifs, mais c'est pas de la superstar.
Moi je sais pas. J'attends de voir quand même. Moi j'attends de voir quand même.
Après, question de Yamal. Yamal, dans tous les matchs qu'il joue, il a l'habitude d'être pris par 2-3 joueurs et d'habitude ça passe. Mais là, ce soir-là, ça passait pas. C'est qu'il est tombé sur des mecs qui étaient. Était bien en place, et il y a des moments, ça va passer 9 fois et la 10e fois, ça passera pas. Et bien là, c'était la fois de trop. Et les Portugais, ils l'ont bien cerné. Et franchement, de le voir déjouer comme ça, c'est même des fois, il s'amusait à dribbler dans son camp proche de la touche. Il la lâchait pas, il s'amusait, mais parce qu'en fait, plus haut, il n'arrivait pas à prendre son plaisir. Parce que dès qu'il arrivait côté portugais, là, c'était cuit.
Non, après, c'est rare, mais ça en dit long quand même qu'on soit en train de débriefer un match comme ça en ayant le focus que sur Yamal. Il a raté son match, certes, mais c'est quand même un peu normal qu'au bout d'un moment, il rate un match, le mec.
Mais on le critique pas, parce que c'est une finale.
Je sais qu'on critique pas, mais limite, moi, ça me rassure. Je tombe à télé, le mec, il a 17 ans. Enfin, il passe à travers. Ok, d'accord, c'est bon. Parce que ça suffit quand même. Il y a le nombre de matchs où on s'est dit, peut-être que ça va être haut là. Ça fait beaucoup. Va falloir confirmer. Et à chaque fois, le mec, il répond présent. Match aller contre l'Inter, il est monstrueux. Ouais, on verra au retour. Au retour, il est encore plus fort. Mais après, il y a le Real en championnat. Il est encore fort. Et tu te dis, là, il est passé à travers, certes, c'est bien. Ça arrive à tous les joueurs du monde, même les meilleurs. Et c'est tant mieux. Et puis après, ça arrive au bout d'une saison. Le débat, il est plus large que ça, et on y reviendra peut-être pour la Coupe du Monde des clubs. Mais ça arrive au bout d'une saison où c'est insupportable. Moi, on regarde le foot parce qu'on est passionné, mais en vrai, ça n'a plus aucun intérêt de regarder. Hier, regarder les mecs du PSG jouer à midi sous 40 degrés. Ouais. Enfin, ça n'a plus aucun intérêt. Les mecs, ils sont cuits, cramés.
Ils viennent ils l'ont pas montré après sur le terrain.
Non, mais en vrai.
Le PSG, ils l'ont pas montré.
Non, mais
plus
moi,
c'est
peur d'une grave blessure en vrai. J'ai juste peur qu'il y ait un des top 3, 4, 5 joueurs.
Mais dès le début, Hakimi, j'ai cru que c'était blessé.
Qui s'éclate.
Hakimi, à un moment, il fait l'accélération, il a senti une gêne ou un truc, mais il est quand même
resté. Mais ça va arriver, vous allez voir qu'il y a des gros joueurs qui vont rater la saison, voire même la Coupe du Monde, parce qu'ils vont se péter là. Bah, c'est...
Déjà
c'est,
qu'un mec comme Koundé se soit blessé, c'est quand même très révélateur de quelque chose, je trouve, personnellement.
En fait, le problème, je pense, pour rebondir là-dessus, sur le fait.
Excuse-moi, qu'il y ait... Léo, très rapidement,
pardon,
s'il te plaît.
Sur, juste pour rebondir là-dessus, sur le fait qu'il y ait trop de matchs, en fait, c'est le problème d'une, qu'il y ait trop de matchs, et de deux, que tous ces matchs en trop, en surplus, ils incluent seulement les mêmes joueurs. Parce qu'au final, quand tu regardes, les joueurs qui jouent 65-70 matchs par saison, ce sont toujours les mêmes. Ce sont ceux qui jouent Real, Barça, PSG, Liverpool, enfin les très gros clubs, parce qu'ils jouent aussi les sélections internationales, ils jouent la Ligue des Champions, ils jouent les compétitions comme la Coupe du Monde des clubs. Au final, c'est une petite... ça représente qu'une petite sphère du foot, du monde footballistique. Mais ce sont eux qu'on regarde tout le temps. Et quand tu regardes un match comme Palmeiras Porto hier, enfin moi perso, c'est le match qui m'a procuré le plus de plaisir depuis le début de la compétition. Ce sont des joueurs que t'as pas forcément l'habitude. Deux équipes qui, voilà, qui sont cool à regarder. T'as des joueurs de talent, t'as du public qui était là. Ça, mais c'est 0-0. Intéressant. Ouais, mais c'était un bon 0-0 pour le coup. J'ai pris plus de plaisir devant Palmeiras Porto que devant PSG Atletico.
Ou devant le Bayern à 10-0.
Devant le Bayern. Voilà.
Et puis au-delà de ça, on ajoute toujours, excuse-moi, on ajoute toujours une nouvelle compétition avec un nouvel enjeu. La Coupe du Monde des clubs, la Ligue des Nations, et tout devient important. Du coup, il n'y a plus d'hierarchie entre une Ligue des Champions, d'accord. Une Ligue des Nations, une Coupe du Monde des clubs. À la fin de l'année, là, si City gagne la Coupe du Monde des clubs, on va dire quoi ? Le PSG a fait une grosse saison. Ouais, mais City aussi a fait une grosse saison. Mais non, la vérité, c'est que City n'a pas fait une grosse saison. Ils auront gagné la Coupe du Monde des clubs, mais ils auront fait une saison très médiocre.
Merci Maxence. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Coupe du Monde des clubs, hein, comme vous avez commencé à en parler. Hein, le Paris Saint-Germain qui se sont imposés 4-0 face à l'Atlético de Madrid. Un Paris Saint-Germain tout simplement trop fort. On y revient juste après. Le Paris Saint-Germain qui sont imposés 4-0 avec un but de Vitinha qui a été supérieur, hein, qui a été l'homme supérieur du match. Maintenant, c'est pas l'homme du match, c'est supérieur du match. C'est ce qu'ils mettent en tout cas pour la Coupe du Monde des clubs. Et Vitinha qui a été, en tout cas nous on va dire homme du match, mais qui a été étincelant avec un but et une maîtrise au milieu de terrain. Fabien Ruiz aussi, qui aurait pu être aussi métronome de ce match, qui a marqué un joli but. Et on a pu voir après le jeune Mayulu, Kang Kingli aussi y aller de sa touche. Et à l'arrivée, ça fait 4-0 sans forcer vraiment. On a senti une équipe de l'Atlético cramée depuis la 5e minute. Même le Paris Saint-Germain, hein, d'habitude, ils mettent un peu plus d'intensité. Mais là, on a senti une petite baisse de régime. Mais quand ils s'accéléraient un peu, ça faisait très très mal. Jason, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Après, je trouve de l'entame de match, quand même, l'Atletico a quand même réussi un peu à tenir les assauts du Paris Saint-Germain. Donc moi, je m'étais dit là, ça a l'air d'être une bonne opposition parce que je me suis dit, quand ils ont commencé à lancer le ballon dans leur camp, l'Atletico, ils ont commencé un peu à tenir le coup, à tenir premier assaut, deuxième assaut, troisième assaut. Je me suis dit, ça va peut-être être compliqué pour le Paris Saint-Germain. Et petit à petit, tu voyais l'Atletico perdre en énergie, de fil en aiguille, tu voyais Griezmann dans le dur, tu voyais un peu Alvarez qui était affûté, mais derrière De Paul, tout ça, tu voyais, c'était compliqué. Et là, je me suis dit, oulalalala, et tu commences à voir Vara, Nuno, ça déboule dans tous les sens, Ruiz. Et là, je me suis dit, le match, ça y est, en gros, il y avait 0-0, mais je me suis dit, le match, il est joué parce que l'Atletico, ils n'arrivaient même plus à ressortir. Ils dépassaient même pas le rond central et quand ça a commencé à combiner, tout le monde a bien vu. Xvara pour Fabián Ruiz, 1-0, 2-0, 3-0. Et après, je me suis dit, l'Atletico, en fait, j'avais l'impression que c'était un entraînement après. Tu voyais, ils restaient tous devant les cages et en gros, ça faisait en mode, ça se déplace de droite à gauche, de droite à gauche, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et en transition, ça ne va pas assez vite. Donc, comme ils jouaient sous le cagnard, mais le Paris Saint-Germain a complètement géré le match. Et grosse prestation, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent autant sous ce soleil. Mais même avec les changements, l'entrée de Mayulu, je n'ai pas vu de grande différence. Parce que quand tu vois Ramos, quand vous en avez parlé tout à l'heure, je n'ai pas trouvé qu'il ait fait un très très gros match.
Non.
Franchement, tu sens que Dembélé n'était pas devant.
Tu sens.
Et mais Mayulu, par exemple.
Que ce soit sur juste le pressing. Hein.
Juste le pressing. Parce qu'après, tu sens que c'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec, avec ça. À faire le pressing.
C'est plus un attaquant, lui, qui attend.
C'est plus un renard de surface. Donc là, je pense qu'il force son corps à faire des efforts dans lesquels il n'a pas l'habitude. Et quand Mayolou est passé devant, tu vois bien que même sur le pressing, ça change.
Ouais.
Parce que c'est un joueur plus fin. Il est très jeune. Il rechigne pas sur les efforts.
Conditions météorologiques aussi, sous 40 degrés.
Ah oui, je dis pas le contraire.
Il a 17 ans. Non, mais je veux dire, il a 17 ans, il est plus léger.
Ouais, c'est ça.
Faire les efforts.
Ouais, bah Ramos, après, il a l'âge quand même contre ça.
Ramos, c'est pas un joueur de vitesse.
Il a 24-25 ans.
Il fait 85 kilos, Ramos. Ouais. C'est quand même plus. Tu vois, un mec comme Sorloth hier, il a pas été à son avantage non plus.
Il a raté un gros face à face.
C'est pour ça.
D'habitude, ça, c'est
même pas un face à face. Il y a même pas de goal.
Il y a personne. Mais ça, c'est les balles qu'il ne rate jamais.
Le match du PSG est très très bon. Il y a rien à dire. Mais je trouve que l'écart au score est un peu large parce que l'Atlético aurait pu revenir dans le match à un moment. Il y a le but qui est refusé d'Alvarez.
Après la faute.
Il y a aussi un accrochage de Nuno Mendes sur Alvarez qui part au but qui est.
Après, tu vois Marquinhos qui revient. Donc après, ouais.
Non, mais il ne siffle même pas faute.
Ouais, il ne siffle
même pas faute.
Ah là, tu siffles faute. De toute façon, tu mets rouge.
C'est pour ça.
Pour moi, il y avait rouge.
Mais donc du coup l'Atlético est fini à 4-0, je trouve ça un petit peu sévère. Après ils font clairement pas un gros match, hein. L'Atlético en difficulté et puis le PSG bien au-dessus collectivement. Mais ils auraient pu s'en sortir un peu à l'Atlético, on va dire, un petit peu salement, avec un 2-1 et puis derrière, en fait,
ils auront déjà fait le coup. En Ligue des Champions, là ils n'auront pas pu leur faire le coup.
Mais ils sont retombés dans leur travers, l'Atlético. Si tu remarques bien, après deuxième mi-temps, ça faisait que casser. Les mecs, ils entraient à peine en jeu, ils prenaient tous des cartons.
Correa, il rentre même.
Coquet, il rentre, carton.
Ça a commencé dès le début, en plus, hein.
Reynildo, il rentre.
L'autre, il a
carton.
Pris rouge, comment il s'appelle
l'anglais, parce qu'il a parlé.
L'anglais, ouais.
Le match de l'anglais, le normand hier, il est
catastrophique. Même comment il laisse Vitinha venir ajuster. Parce qu'en fait, ils se disent Vitinha va la donner à Désiré Doué. Du coup, il lui laisse un espace comme ça. Vitinha, il a tellement confiance en Vitinha que. De l'ajuster, quoi.
Bah, même Fabien Nouris, son premier but, c'est vraiment des joueurs en confiance. Mais c'est là que tu vois. Bah, c'est le foot, hein, c'est ça. C'est
la transformation de Fabien Nouris.
Tu vois un effectif qui est en osmose et qui va très très bien. Même si les joueurs ils sont à bout, il y a une telle. Qualité technique et une telle cohésion d'équipe que bah ils marchent sur une autre équipe qui est en face est à court d'idées et ça fait des années qu'ils sont avec le même entraîneur et je pense que le discours ne passe plus en fait. Je pense vraiment que le discours il passe plus. Je pense que même
près
lui,
de 750 matchs disputés
tu sais,
avec
ou d'un moment faut savoir dire au revoir. Quand je vois Griezmann, il va prolonger, j'ai été un peu surpris.
Il l'a déjà prolongé, j'étais un peu surpris.
Mais pour moi, l'arbre qui cache un peu la forêt, bon, pas que, parce que je suis un peu sévère là, c'est vrai, parce qu'ils font quand même une saison qui n'est pas dégueu, l'Atlético. Mais enfin, jusqu'à l'élimination contre le Real. Mais l'arbre qui cache la forêt, c'est Julian Alvarez en vrai, parce que c'est vraiment.
Ouais, il fait une grosse saison.
C'est un crack, Julian Alvarez, et c'est un des seuls. En plus, il court beaucoup, et c'est un des seuls qui hier, selon moi, a fait son match, quoi.
Mais ça, c'est aussi des.
Dans un match comme ça, c'est dur de dire que quelqu'un a fait son match quand même.
Surtout quand il marque un but qui est refusé après, en vrai, il n'est pas dans un contexte facile.
Il court, il propose des trucs. Mais moi, demain, je suis agent d'un mec comme Alvarez. Qu'est-ce que tu vas l'envoyer à Atlético? Sérieux, c'est pas un cadeau.
L'année prochaine, il va aller à Barcelone.
C'est ce qui lui a permis de se développer aussi.
Parce qu'à City, il allait jamais se développer.
Exactement. Ouais, mais je pense qu'il y avait mieux à trouver.
Tu peux aller à Dortmund, à l'Atlético. Quand tu vois Luis Suárez, la saison qu'il fait à l'Atlético, Luis Suárez, il revient à l'Atlético. Tu vois ça, tu te dis.
Non, c'est pas compliqué.
C'est pas le même effectif à l'Atlético.
Il était même pas trop en fin de carrière.
Tu vas en Bundesliga, tu mets 30 buts l'année après, t'es dans un gros club. Hein.
Ça se passe mal. Les Sud-Américains, ça se passe généralement mal en Allemagne. Et en plus de ça, honnêtement, t'es pas vraiment le meilleur choix à faire. Et tu dis ça, mais je pense pas qu'il y avait des meilleures offres.
Parce que City proposait beaucoup d'argent.
Alvarez, il a un gros salaire. Je pense pas qu'il y ait des meilleures offres dans le top 6-7 européens que l'Atlético.
Un joueur de ballon comme ça, je l'envoie jamais
à part Paris. Paris, moi, si j'étais Paris, j'aurais foncé sur eux. Mais apparemment.
Et surtout qu'en sortant de City, il est pas confirmé. Donc,
c'est ça aussi.
Tout le monde n'aurait pas.
Quand même, champion du monde,
il n'est pas confirmé.
Il n'a jamais fait une saison titulaire.
Voilà, exactement.
Grosse Coupe du Monde, champion du monde, 80 millions, il marque des buts à chaque fois.
Tout le monde coûte 80 millions quasiment maintenant. Donc, ça, c'est pas un truc à dire. C'est que La majorité des attaquants maintenant, c'est 70-80 millions.
Non, tu sais que c'est un joueur qui est
différent. Ah oui, qui a du potentiel. Mais pas, quand il sort
c'est pas de world class encore, mais c'est pas non plus voilà. Le mid. Quoi. C'est un très bon joueur.
Là, franchement, il se rapproche de la world class, hein, honnêtement.
Non, mais non, c'est un, là, il, grâce à cette saison,
aujourd'hui, c'est peut-être,
il a pu travailler certains aspects qu'on n'avait pas vu à City encore. Par exemple, taper les coups francs, tu le vois. Plus, il, c'est le mec qui sait tout faire. Il attaque en complet, ouais. Il sait décrocher, il sait prendre la profondeur. Ouais, mais c'est grâce à cette saison qu'il a pu découvrir lui-même son propre potentiel.
Pied droit, pied gauche en plus. Franchement, c'est
ça. Léo, toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
J'ai eu l'impression de voir un match de pré-saison où les joueurs étaient là sans être là. L'ambiance du stade était morose. Malgré la présence de 80 000 personnes.
Non, il était pas complet, hein.
Oh, mais justement, c'est 90 000 le stade. Okay. Et il y avait 80 000 et quelques officiellement annoncé en tout cas. Moi, l'Atlético, je pense que ça va plus loin que Diego Simeone parce que justement, je trouve qu'il arrive à se régénérer dans le sens où on connaît l'Atlético, on sait quel type d'équipe c'est. C'est plus une équipe défensive comme ça l'a été il y a quelques années parce que déjà aujourd'hui ils n'ont plus les mêmes joueurs, ils n'ont plus la même assise, ils n'ont plus les mêmes capacités. Mais moi ce qui m'impressionne toujours par rapport à Diego Simeone, c'est sa capacité à faire adhérer ses joueurs à ses principes de jeu. Un joueur comme Alvarez, comme le disait Maxence, c'est pas un joueur. La première de ses qualités quand tu le verrais dans une équipe, c'est de faire des courses à répétition. Là tu le vois aujourd'hui. Le mec est capable de finir un match à 13-14 bornes. Pour un attaquant, un buteur en tout cas, c'est exceptionnel. Même moi, quand je vois le fils Simeone à Giovanni, je me dis, mais c'est une machine de guerre,
il
le mec physique en tout cas.
Mais lui, il n'a pas le choix, sinon il se fait renier.
Mais tous, ce sont des. Même Antoine Griezmann, techniquement aujourd'hui, est en ultra difficulté. Mais physiquement, le mec continue à tout donner. Moi, c'est ça qui m'impressionne chez ce coach. Après, je pense qu'il y a un vrai manque de qualité aujourd'hui à l'Atlético.
Non, je suis pas d'accord.
Quand tu vois la charnière, je pense que par exemple, Andrew Robertson, s'il arrive de Liverpool, il va être parfait pour ce poste. Je pense que tu as des joueurs.
Peut-être défensivement, je peux te suivre. Mais...
Ouais, moi, je pense plutôt défensivement, tu vois. Parce que au milieu, le Barrios, qui est encore très jeune, j'aime beaucoup. Llorente, qui est un joueur.
Ils l'ont tué, moi, je trouve. L'Orienté, c'était un gros potentiel. Ouais. Et le mettre arrière droit, il est gâché.
Mais c'est un joueur qui peut jouer partout.
Lui. Sa meilleure saison, c'est quand il est arrière droit. Ouais. C'est en 2021.
Au milieu de terrain aussi, il aurait pu avoir un gros volume de jeu.
Alvarez, qui est un très bon joueur. Simeone, moi j'aime bien. Sorloth aussi, qui est bon. Sorloth, qui fait une grosse saison d'ailleurs. Hier, il a un loupé. Tu te demandes comment il la loupe. Au Black, je pense qu'il va falloir quand même s'il fait une bonne saison, je pense qu'il va falloir.
Il fait pas une si bonne saison que ça, en Black. Il fait une saison que contre le Barça, ouais, mais sinon,
il fait une saison mid, va falloir penser à le changer parce qu'il est plus tout jeune non plus. L'anglais, je pense qu'ils n'ont pas réalisé l'opération du siècle en le transférant défensivement. Le Normand, j'aime bien, mais il est un petit peu en deçà. Voilà, il y a des joueurs qui ont peut-être pas le niveau d'un club comme l'Atlético. Après, moi, l'Atlético, je m'attends pas à les voir non plus au niveau du Barça ou du Real. Je pense que c'est vraiment le troisième club d'Espagne et qu'ils ont bien ce rôle et ce statut d'implanté. Voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont faire cette saison et puis où est-ce qu'ils vont aller parce que je pense qu'il y a un chantier quand même cet été.
La saison prochaine, du coup, parce qu'il paraît qu'on est encore dans l'ancienne saison.
Pardon,
donc elle s'arrête jamais, on sait pas trop quand elle finit et quand elle reprend, mais voilà.
Mais voilà.
Merci Maxence, merci Léo aussi pour cette analyse. On va poursuivre de ce qu'il en est de la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, pour l'instant, on va revenir plus tard sur les prochains matchs. En tout cas, je pense que ça va être vraiment excitant, entre guillemets, à partir à partir des quarts, quoi. Parce que là, ça.
Moi, franchement, je m'en fous. Je vous le dis. Enfin, c'est-à-dire qu'on va regarder parce que voilà, il faut. Mais j'en tirerai aucune conclusion. Si le PSG est battu par une autre grande équipe, j'irai pas à dire ils ont montré qu'ils étaient meilleurs, etc. Non, la vérité, on l'a vu, c'est en Ligue des Champions. En ce qui concerne l'Europe, la vérité, c'est en Ligue des Champions. Ce qui se passe après, enfin, il y a tellement d'aléas qui rentrent en jeu. Et puis les mecs, là, ils ont envie d'un peu de vacances quand même. Ça se comprend et ça se comprendrait. Il y a une Coupe du Monde dans un an. Enfin, je trouve ça ridicule. Donc, je comprends qu'il y ait des clubs qui aient gros à jouer là-dessus. City, le Real, parce que leur saison, elle est très, très moyenne et en dessous des espérances. Mais pour ceux qui ont réussi leur saison et qui ont fait des choses déjà correctes, il n'y a plus rien à jouer là-dessus. Et c'est juste aller récupérer un peu de cash aux États-Unis devant des footiques qui connaissent rien, qui comprennent rien, à qui on a donné un maillot. On leur dit voilà, quand ça rend, ça, quand ça passe la ligne de but, t'applaudis et tout. Okay,
mais après, détrompe-toi, hein, parce mais... que tu sais qu'ils ont. Ils remplissaient pas les stades. Du coup, ils ont.
Ils ont baissé les
ils
prix.
Ils ont baissé les prix, mais de. Ouais, c'est passé par exemple de 300
pour 20
à 40.
Pour 20 dollars, t'avais 4 places. 4 dollars,
ouais.
Il me semble.
Ouais, ouais, c'est passé de 300 à 40 et tout. Parce que ça marche pas, en fait. C'est... Bon, après, c'est la première, donc on peut pas. C'est comme. Enfin, c'est difficile de juger.
C'est normal qu'il n'y ait pas de fans de l'Atlético Madrid à Dallas. Enfin, ça me paraît.
Après, pour moi, la Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine sera bien à distinguer de la Coupe du Monde des clubs.
Ah, mais totalement.
Parce
bien
que
oui,
la nation, c'est totalement différent.
Non,
mais
ça, elle va fonctionner. Et puis les Américains, ils seront comme des oufs parce que leur équipe.
Mais moi, c'est le principe de Coupe du Monde des clubs dans une année impaire qui est censée être une année neutre
mais oui.
Où les mecs peuvent se poser pendant un mois, repartir sur une grosse saison, etc. Là, c'est faire du cash pour faire du cash et faire de la stat et dire voilà, ah, Kane, il a mis un triplé en demi, c'est peut-être lui le meilleur neuf du monde. Ah non, c'est Mbappé qui a mis un doublé contre je sais pas qui. En vrai, on s'en fout. Hier, on voit jouer des Auckland, les mecs. Enfin, franchement, autant aller sur n'importe quel.
Après, terrain. Attention,
c'est des amateurs.
Ouais, mais voilà. Pour moi, Auckland, ils méritent d'être là. Ils sont champions. Ils ont mérité leur place sur le terrain, en fait.
Non, mais ils méritent d'être là, mais c'est juste que ça n'a pas de sens.
C'est le fait d'être là qui n'a pas de sens. Enfin,
sachant que
c'est le fait d'organiser cette compétition-là qui n'a pas de sens.
Et la prochaine édition. Ils veulent encore agrandir le nombre. Sûr. Ils vont la passer à 48.
Mais
je
tu
pense
verras que t'auras 3 clubs français, t'auras 4 espagnols. Parce que là, la première truc qu'ils se sont dit, je pense, la FIFA, c'est le regret de ne pas avoir Liverpool, de ne pas avoir le Barça. En se disant, mais
bien
on
sûr.
A raté
Manchester
le Barça.
United.
On a raté le Barça qui fait une saison de ouf. On rate Manchester United, un des clubs les plus riches d'Europe. On rate le champion d'Angleterre. Parce que là, ils n'ont pas le champion d'Espagne, ils n'ont pas le champion d'Angleterre. Donc ils vont se dire, pour surtout plus que ça arrive, on prend tout le monde. Et on a 4 de chaque pays, 5 de chaque pays, et puis on verra bien.
Après, pour moi, c'est pas une mauvaise idée hein, de ce type de compétition. Pour autant, je pense que le format idéal aurait été de commencer à partir des 8e de finale sur un match sec. T'as des équipes qui se qualifient de chaque confédération. La FIFA en a 6.
J'aurais fait même des 16e de finale alors.
Ouais, mais toujours plus de matchs.
Oui, bah, mais parce ça. Que, non, mais parce que plus. C'est avec 32 clubs. T'aurais fait des 16e de finale.
Oui, ou si,
je sais pas,
si
parce
veux,
que si tu fais des 8e, il y a moins de matchs. Oui,
voilà,
sur match
sec.
Sec
parce que là, tu tapes. Ça veut dire qu'une équipe qui va aller au bout, elle va faire 3 matchs de poule, un 8e, un quart, une demi, une finale.
Ça dure un mois. C'est
le 13 juillet, c'est la finale. Donc je dis n'importe quoi. Le Real va au bout. Donc même s'ils ne la gagnent pas, ils vont en finale 13 juillet. La Liga reprend le week-end du 16 août. T'imagines ? C'est-à-dire qu'ils vont avoir quoi, 2 semaines de pause ?
Non, 3 semaines, c'est obligé.
3 semaines,
ouais, mais
ils vont être obligés de faire un match de prépa entre leur reprise et le début
tu vois,
du championnat.
Ça va créer un problème avec la fédération, c'est
mais
sûr.
Mais aujourd'hui, attendons des blessures et on aura nos yeux pour pleurer. Quand la Coupe du Monde, t'auras pas Wirtz, t'auras pas Mbappé, t'auras pas Yamal, t'auras pas un de ceux-là, bah on dira bah ouais, c'est dommage parce que l'Espagne, ils sont
même le niveau
sans,
global, et l'intérêt des fans.
Mais c'est surtout que là, la majorité des clubs n'ont pas toutes les recrues qu'ils vont avoir à l'avenir. Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas dire qu'ils préparent la prochaine saison.
Du tout,
ouais. Ben c'est ça, parce que quand les recrues vont arriver, ben en
ça
fait,
va partir de zéro.
Ça va partir de zéro et ça sera la vraie saison qui va commencer. Donc il n'y aura aucun automatisme et les débuts de saison vont être catastrophiques.
Puis ça aussi, c'est ridicule. Ils ont fait une période de mercato avant la Coupe du Monde des clubs. Là, ils en font une entre la phase de poule et la phase à élimination directe. Et puis après, il y a encore le mercato normal qui se termine le 1er septembre.
Et après, tu as le mercato d'hiver pendant la poule de Ligue des Champions. Comme ça, si tu as une équipe qui a mal démarré ça avec des champions, tu récupères 2-3 joueurs et puis tu te qualifies pour les 16e de finale. Non, mais c'est un truc de fou.
Excusez-moi, messieurs, c'est ce que Diego Simeone, en tout cas, a dit. Mais bon, on sait que ça ne va pas suffire. Hein.
Et il l'a dit.
Oui, il a dit 70 millions sur Kvara.
Ah oui, ok.
Voilà, c'est ce qu'il a dit.
Mais ça, je l'ai plus ressenti comme une pique à sa direction que comme une pique au PSG pour le coup. En mode eux ils peuvent
après,
dépenser
ouais,
alors
après,
que l'Atlético
après, lui,
ouais, mais bon,
aussi hein,
ouais mais bon après quand lui
faire
quand lui
en Espagne
ouais,
il est
ouais, mais bon,
plus dur
ouais mais bon après quand lui il va mettre 126 millions sur Rao Félix qui va marquer contre l'Atlético
ouais, après,
et qui célèbre tu te dis on va plus lui redonner autant d'argent je pense
ouais enfin après son comparatif je sais pas s'il est bon parce que un Rao Félix pour l'Atlético par exemple l'Atlético le paye pendant des années c'est-à-dire que pendant des années ça fait des trous dans leur budget alors que le PSG peut se permettre d'avoir Gonçalo Ramos, Colomani 80 160
ouais
qui sont des pertes à l'heure actuelle et ne pas en
même
ressentir.
Même pas Gonçalo, parce que Gonçalo, il joue.
Je veux dire, t'as mis 160 millions sur des mecs qui sont pas décisifs dans ton équipe. Et t'en ressens pas le prix, parce que derrière, tu peux aller poser 80 sur Neves.
Oui, c'est ça,
tu peux aller poser 70 millions sur Kvara. Donc, une grosse erreur de recrutement, ça arrive dans tous les clubs, mais la différence, c'est que le PSG n'en paye jamais le prix, comme City n'en paye jamais le prix.
Mais moi, c'est ça.
Alors que dans un club normal, On peut dire, ah ouais, ils ont mal géré leur argent. Mais si tu gères mal ton argent, tu vas t'en souvenir pendant 2, 3, 4 saisons après, parce que tu vas en subir les conséquences.
C'est pour ça que ça me fait rire quand on dit, oui, le PSG aujourd'hui, c'est moins bling-bling qu'avant. Mais bon, tu poses 90 millions sur Randal Kolo Muani, c'est juste que c'est pas. Tu poses 90 millions aujourd'hui sur Mohamed Salah, c'est la même chose. Tu vois,
tous 50 millions, donc oui, c'est pas bling-bling, mais ils sont tous très, très, très chers.
Quand tu te permets de poser 70 millions sur Kvara en hiver, ou là, Zabarni, 65 millions. Au bout d'un moment, le bling-bling, c'est juste par les noms, mais en termes de salaire et de termes de contrat, bah,
ton 12e ou 13e homme qui est ta pépite, Désiré Doué, tu la récupères à 60 millions pour le faire asseoir sur ton banc.
Mais ça va.
Ouais, mais oui.
Ils
ont la Ligue des Champions. Ils ont la Ligue des Champions. C'est plus des transferts à 222 millions que tu rentabilises pas. On va poursuivre. On va juste poursuivre. On va se faire une petite pause avant de revenir avec le sujet croquant de cette émission. Hein. Ballon d'or, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Hakimi, Nuno Mendes ou pourquoi pas même Paul Pogba, on va en parler en tout cas. Bah oui. On y revient juste après.
Hey, retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM, il est 21h42. Si vous venez de nous rejoindre, nous avons parlé de la Ligue des Nations, de la Coupe du Monde des clubs. Et là, on va parler du sujet tant attendu. Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Hakimi, Nuno Mendes. Qui pour le Ballon d'Or? Kylian Mbappé, Mohamed Salah? Qui pour ce Ballon d'Or 2025? Maxence, je t'écoute.
Alors moi déjà, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit tant attendu. On est au mois de juin, on a eu une belle saison de foot, parce que pour moi elle est terminée, et on parle d'un truc qui va être décerné quoi, en octobre?
Ouais.
Oui, mais sur cette saison.
Ouais, mais moi,
on en parle quand?
Il y a la moitié de l'année. Non, il y a la moitié de l'année où on parle Ballon d'Or. À partir de avril, déjà, on commence à parler Ballon d'Or.
Mais c'est ce que les gens veulent. On n'a pas, pas tant que parler que ça. Hein.
Non, mais là, il reste 4 mois. C'est
est-ce qu'on
n'a
tant parlé que ça?
Non,
ici.
Pour l'instant, non. Voilà. Mais là, il reste 4 mois.
Ouais, mais donc, t'enlèves déjà 2 mois parce qu'il y aura les vacances.
Je me dis, un mec comme Dembélé, sa saison, elle est exceptionnelle. Il a gagné avec des champions. Mais c'est ça son plus bel accomplissement, c'est ça, c'est d'avoir ramené la première Ligue des Champions.
Mais tu sais ce qu'il a dit, Ousmane Dembélé? T'as vu les déclarations?
Mais Ousmane Dembélé, il a la bonne mentalité, et c'est exactement ça qu'on veut. C'est que le mec, il n'est pas orienté Ballon d'Or, il est orienté collectif. Même pendant la finale, il n'est pas allé chercher son truc pour le Ballon d'Or, à marquer un but absolument, à mettre un tap-in, à prendre un péno, à avoir un truc. Il a continué à jouer collectif, à jouer son foot. Mais ce dont on se rappellera dans 50 ans de Dembélé, c'est qu'il a ramené la première Ligue des Champions au PSG. Et les mecs du PSG s'en rappelleront toute leur vie. Le Ballon d'Or, c'est bien si ça arrive, mais en vrai, moi,
je suis pas d'accord parce que si.
Je
m'en fous de ouf, mais s'il gagne le Ballon d'Or, on se souviendra qu'il a gagné aussi le Ballon d'Or.
Bien sûr, mais pour moi, c'est
pas. Et tu te souviendras plus, parce que c'est pas que les fans du Paris Saint-Germain. Là, les fans du Paris Saint-Germain, oui. Mais là, c'est le monde entier qui saura que là, 2025, Ousmane Dembélé a été Ballon d'Or, il a ramené la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Tu vois, c'est ça que ça conclut, en fait. C'est ça le truc. En fait, le trophée doit revenir au Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, dans ce sens-là. Où tu veux marquer et que tout le monde va s'en souvenir durant des années et des années.
Sauf que le Ballon d'Or, c'est devenu un truc subjectif.
Bien
chacun
prêche pour sa part.
Et où, en fait, tout le monde est là et il faut forcément avoir un camp, parce que si tu dis que Dembélé le mérite, c'est-à-dire que t'es anti-Yamal.
Oui,
si tu
dis
que Yamal le mérite, c'est que t'es anti-Dembélé. Et c'est que.
En fait, c'est exactement ça.
Alors que tu peux tout à fait dire que les deux le méritent et que s'il y en a un qui l'a, c'est pas un scandale. Mais Dembélé fait une saison historique et moi je suis pour le donner à un mec qui a gagné un truc collectif. Et qu'on se dise, en 2006, c'est Cannavaro, parce que je sais qu'il a gagné avec des la Coupe du Monde cette année-là avec l'Italie. Moi, ça me saoule les ballons d'or qui sont décorrélés de ce qui s'est passé dans la saison, parce que le mec, il a mis 65 buts. Et j'aime bien me rappeler d'une année avec un ballon d'or qui colle avec ce que j'ai vu, en me disant, mais oui, cette année-là, c'est avec des champions de machin. Ah non, cette année-là, c'est l'Euro de trucs. Mais donc, c'est pour ça que j'irais plus sur Dembélé. Mais moi, ce truc de prendre parti et donc de dire, ah, je suis pour Dembélé, du coup, tout ce que fait Yamal, vas-y, c'est de la merde, c'est nul, c'est n'importe
après,
quoi.
Après, ça, c'est que sur Yamal, Twitter que tu vois.
Yamal, Yamal, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Dembélé fait la meilleure saison du monde. Donc, je donnerai le ballon d'or à Dembélé.
Pas la meilleure saison. pas la meilleure saison du
monde. Non, la meilleure saison collective, c'est lui qui fait la meilleure au monde.
Cette saison.
Fait la meilleure
moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit avant. Yamal est le meilleur joueur du monde aujourd'hui, je suis pas d'accord avec.
Mais,
du tout.
Ok, ok.
Voilà, déjà. Non, mais c'est mon point de vue. Chacun a sa sensibilité. Excuse-moi, mais tu peux pas me dire c'est le meilleur.
On n'a pas la même sensibilité foot parce que quand il touche le ballon, personne au monde me fait cet effet-là.
Pourquoi c'est qui le meilleur joueur au monde?
Ah, mais c'est pas Yamal. Je dirais pas, mais c'est pas
Il va dire c'est Cristiano, je vais dire que c'est Lionel Messi.
Non, mais je critique pas. Non, je critique pas. Non, je ne critique pas. J'ai juste dit, moi, j'étais pas d'accord. Mais j'ai pas critiqué.
Non, on veut savoir pourquoi j'étais pas d'accord.
Excusez-moi, mais moi, pour moi, honnêtement, en deux, trois trucs. Pour moi, un mec qui a fait une demi-saison, même pas une demi-saison, une demi-saison. Et faut se dire la vérité, parce que les gens
oublient. Mais non, c'est faux.
Et dans le football, on oublie généralement beaucoup. En début de saison, tu voyais pas Yamal. Tu parlais même pas de Yamal.
Je voyais pas Yamal. J'ai regardé tous les matchs de Barcelone.
Tu parlais de Yamal. Qu'est-ce qui te faisait plus d'effet, voir Rafinha avec le ballon ou Yamal en début de saison? Dis la vérité. En début de saison,
avec le ballon.
En début de saison,
c'est Yamal. C'est juste que Rafinha, il fait pour moi, Rafinha fait une meilleure saison.
Excusez-moi,
mais celui qui est le meilleur dans l'équipe, c'est Yamal.
Dembélé, septembre, décembre, c'est bien.
Mais moi je dis pas que c'est, mais on n'est pas
merci.
En train de
Désiré Doué, c'est le meilleur joueur au monde.
Non mais excusez-moi, mais moi j'ai pas dit que c'était Ousmane Dembélé mon joueur.
Mais c'est qui alors? C'est Mbappé.
Mais moi je vous ai pas dit ça.
Alors ça veut dire c'est Mbappé.
J'ai mon meilleur joueur du monde, je vous le dirai pas parce qu'on va pas débattre pendant 20 ans. Mais Alexandre, vas-y, je t'en prie.
Non, moi je bois les paroles de Maxence. Parce que après, en fait, le Ballon d'Or c'est devenu en fait limite sans intérêt. Et enfin, façon de parler, parce que c'est quand même une distinction individuelle qui existe depuis très longtemps, etc., etc. Mais je vais dire, c'est devenu en fait le reflet de lui-même, le Ballon d'Or. Parce qu'en fait, comme t'as dit, Maxence, c'est un truc en fait. C'est impossible de plaire à tout le monde. Il y aura toujours des détracteurs, il y aura toujours des trucs inaudibles de tous les côtés. Et j'entends même des gens je vois des trucs qui disent oui, le public devrait voter. Non, mais.
Surtout pas.
En fait, et pourtant.
Ouais, mais pas les gens de ça rapidement. Non, mais ça va être Arda Güler, Ballon d'Or, tous les Turcs qui vont voter.
Je suis pas fan je suis pas forcément fan de la version des votes, etc. Mais je trouve que c'est la plus cohérente, en fait. Parce que si c'est pas des journalistes qui votent, ça va être comme le faisait la FIFA. Avant, ça va être les coachs, les sélectionneurs et les joueurs. Sauf que les joueurs, ils vont voter pour leurs potes.
On voit très bien avec les trophées UNFP. Voilà. C'est les joueurs qui votent, c'est tous les ans n'importe quoi.
Voilà, exact. Bon, cette année, je trouve que ça a pas été n'importe quoi. Mais celle d'avant, oui. Mais c'est pour ça qu'en fait, malheureusement, c'est la meilleure solution. Sauf que quand je vois après le journaliste du Suriname qui va voter pour Mané,
Goretzka, parce qu'il ne suit pas les matchs. Non, mais il y en a surtout qui votent, ils ne suivent pas les matchs.
Ils se mettent au Bameyang.
Et c'est pour ça, pour terminer mon propos, donc ça c'était le propos sur les votes du Ballon d'Or. Mais c'est tellement subjectif, le Ballon d'Or. Et ça varie tellement toute l'année. En fait, le Ballon d'Or, on devrait en parler le jour d'avant. Parce que. Combien de. Même ici, hein, on l'a dit, Salah Ballon d'Or. Et limite, on disait, en fait, ce sera Salah, c'est quasi sûr, c'est une vérité générale.
Non, mais on est obligé de.
On peut juste constater.
Je me souviens pas quelqu'un qui ait dit ça, mais bon. Je dis juste qu'on est obligé de tenir au courant au bout d'un moment quand il y a des grosses séances et que tu vois qu'il y a des joueurs qui se détachent. Tu te dis, pour l'instant, il va vers le Ballon d'Or. Ou pour l'instant, il est le plus proche du Ballon d'Or. Si la saison s'arrête là aujourd'hui, tu lui donnes le Ballon d'Or. Et c'est la vérité.
Quand il fait son début de saison, je te dis qu'il court vers le Ballon d'Or.
Tu mets même pas Yamal dans le top 5. Tu le mets pas dans le top 5. Mais c'est faux. Tu le mets pas dans le top 5 mais oui,
oui, au début de saison, oui,
c'est pas le contraire. Je te dis pas le contraire, mais tu le mets pas dans le top 5.
Mais c'est comme ça, donc, c'est pour ça que je te dis.
C'est normal qu'on.
La Coupe du Monde des clubs, là tu dis le Bayern est grand favori parce qu'ils ont mis 10-0, mais c'est pas là que ça se joue la compète. C'est pareil pour le Ballon d'Or.
Mais l'adversaire,
c'est pareil pour le Ballon d'Or. Ça se joue pas.
Excusez-moi, on va juste recentrer le truc. Je sais que voilà, là aujourd'hui en tout cas, le sujet, c'est on parle du Ballon d'Or. Voilà, le sujet c'est ça. On parle du Ballon d'Or et on donne son favori et on défend pourquoi on a choisi un tel. Point barre. Il nous reste 10 minutes, s'il vous plaît, venons, on fait ça. Très rapidement pour qu'on puisse passer à la suite.
Je vais répondre à ta question. Déjà, Nuno Mendes, Hakimi, je vois pas ce qu'ils font dans le débat, je t'avoue. Parce que t'as posé la question pour
moi. Je vois pas ce qu'ils font dans le débat.
Non,
carrément.
Non, pour le Ballon d'Or, non.
Moi, je veux, pareil, exactement. Il manque Vitinha.
Pour moi, il manque Pedri.
Il manque Rafinha aussi, meilleur buteur, meilleur passeur de
la Ligue.
Je l'ai dit, double.
Non, mais moi, je pense que ce qui est important dans un premier temps.
Un double 30.
Ce qui est important dans un premier temps, c'est de dire. Qui est-ce qui est candidat crédible, vraiment crédible? Parce que t'as des candidats crédibles. Hakimi est un candidat crédible, mais il n'est pas un candidat vraiment crédible.
On sait qu'il l'aura jamais, quoi.
Voilà, exactement.
Aujourd'hui, Mendes, pareil.
Aujourd'hui, t'as deux.
Il n'y a que deux qui peuvent
aujourd'hui,
l'avoir.
Aujourd'hui, t'as deux.
Il y a
Yamal Dembélé. Et après, c'est à la sensibilité.
Moi, c'est ce qui me dérange. Mais...
Moi, ma sensibilité, exactement, ce serait plus d'aller vers Yamal. Parce que c'est un joueur qui. Moi, pour... c'est lui qui me fait allumer.
Parce qu'il n'y a que lui qui sait faire ce qu'il fait.
C'est lui
fait,
qui me fait allumer la télé, tu vois. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas eu une prestation individuelle de ce que j'ai vu. J'ai pas vu tous les matchs de la saison, évidemment. Mais qui m'a plus plu ou qui m'a plus choqué que sa prestation contre l'Inter. Alors après, élimination, pas élimination, on s'en fout. Individuellement, ce qui m'a le plus choqué.
Non, excusez-moi,
cette
mais on s'en fout pas. Ça fait partie
là,
des critères du
j'ai
Ballon
entendu
d'or.
Des gens, ils disaient quoi ?
Ça fait partie
des critères
du Ballon d'Or.
Il sortir en demi alors
non,
que
ça fait partie du Ballon d'Or.
Il y a un trophée aussi.
Il va au bout. Est-ce qu'on en discute là ? On est en train de faire le débat comme on est en train de le faire. Il gagne la Ligue des Champions. Qu'on est en train de faire le débat.
T'as répondu.
T'as répondu. Il y a un match de Ligue Champion. On en parle pas. Ça veut dire que c'est le meilleur joueur du monde ?
Non,
c'est
si. Non, mais parce qu'il l'a fait gagner. Mais là, il le fait pas gagner.
Mais
comme pour toi, là, il y a pas débat. Ousmane Dembélé, il va au bout. Il y a pas débat. Pour moi, Ousmane Dembélé, il va au bout. Pour moi, il y a pas débat.
2013, Ribéry va au bout, il n'y a pas débat.
Mais c'est pas pareil. Ribéry a marqué un but en Ligue des Champions. Et la sensation qu'il faisait, tu peux pas me dire que c'est la même que Yamal aujourd'hui. Excusez-moi.
Varane en 2018.
Il gagne tout, mais qu'est-ce qu'il prend ? Bah, aujourd'hui, Nuno Mendes, il fait une aussi bonne saison que Varane en 2018.
Non, Varane, il fait Ligue des Champions plus Coupe du Monde.
Oui, mais
quand même. Respectons quand même.
Non.
Faut respecter Varane. Et les deux titulaires.
Entre une National League et une Coupe du Monde, je veux bien, mais
attends, il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive.
Attention.
Oui, mais c'est pas un fédérateur majeur de la Ligue des Champions. Non, non, pas plus que Nuno Mendes l'est avec la Ligue des Champions.
Juste pour finir,
t'as Cristiano Ronaldo.
Moi, j'ai
t'as
une
Modric,
sensibilité.
T'as Cruz.
Personnellement, j'ai une sensibilité pour Yamal. Pour autant, je pense que si Paris va au bout de cette Coupe du Monde des clubs, Dembélé.
Ah, donc ça compte maintenant la Coupe du Monde des clubs.
Ça
okay.
compte pas.
Non,
ça
non laisse-le terminer.
Tu peux tomber contre les Seattle.
Alexandre, laisse-le terminer, s'il te plaît.
La Coupe du Monde des clubs.
Léo, tu peux aller au bout, s'il te plaît.
La Coupe du Monde des clubs, qu'on le veuille ou non, va compter parce que la FIFA veut que ça compte. La FIFA en fait la promotion depuis 2 ans, dit que c'est la plus grande compétition avec les meilleures équipes.
Le journaliste du Vietnam, ça comptera pour lui.
Ça va compter parce que aussi, ça va être dans les dans la mémoire, on va se souvenir en premier s'il y a une finale.
Mais ça va compter, oui, mais ça ne devrait pas compter. C'est ça ce que je
dis. Mais je dis pas que ça devrait ou devrait pas, mais que ça va compter.
Oui, ça va compter,
parce
que ça devrait même pas compter.
Aujourd'hui, la Coupe du Monde des clubs, qu'on aime pas, qu'on soit pour, qu'on soit contre, on en parle. Dans les médias, ça va en parler. À la radio, on en parle. À la télé, on en parle. C'est gratuit, tout le monde a accès. Donc forcément, ça va compter. Et puis la communication de la FIFA fait que ça compte.
Puis moi, le gars ne la joue même pas. Yamal, il la joue même pas. En fait.
Oui,
c'est ça.
Mais ça va quand même compter dans l'inconscient. Aujourd'hui, le dernier, au moment de voter, donc les votes, ils se clôturent fin août, il me semble, ou début septembre, quand les journalistes vont voter, ils vont penser, alors qu'est-ce que c'est le dernier truc que j'ai vu de Dembélé et tout ça ? Hop, le PSG gagne la Coupe du Monde des clubs, en plus, ils ont gagné des champions, bon bah voilà. Ça y est, on clôture.
Après, Yamal, il a tellement marqué les
mais moi, je suis... mais moi, je donnerai à Yamal aujourd'hui.
Mais après, ce que vous oubliez.
Merci. On va juste enchaîner.
Voilà. Après, ce que vous oubliez, c'est que Dembélé, quand il va. S'il revient de blessure, quoi, si tout va bien, et qu'il arrive dans les tours décisifs, si, il fait des entrées qui choquent. Là, c'est le monde entier qui voit la Coupe du Monde des clubs.
Oui.
Donc, c'est les Brésiliens.
Pas autant que la Ligue des Champions.
Pas autant que la Ligue des Champions.
Si.
Non.
Les votants, c'est des votants brésiliens.
Oui,
mais là, parce que les
Brésiliens regardent autant la
Ligue des
Champions.
Mais là, parce que là, il y a leurs équipes. Il y a Palmeiras, il y a truc. Il y a les Coréens. Il y a tout le monde qui regarde ça.
Ils iront pas en 8e de finale.
Non, mais ils vont suivre la Coupe du Monde, peut-être jusqu'au bout.
Autant qu'ils suivent la Ligue des Champions, je pense. Parce que Ligue des Champions, t'as aussi des
Brésiliens. Ah, je suis pas sûr que les Coréens regardent la Ligue des Champions.
Je suis pas sûr.
Franchement, je suis pas sûr.
En gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils vont le regarder du même œil que la Coupe du Monde des clubs.
Voilà.
Et là, c'est comme ça, tu vois. Et dans leur tête, c'est comme ça. Nous, c'est nous parce qu'on est en Europe. Eux là-bas,
ouais,
forcément,
oui. Parce que ils ont la journée.
Et surtout même le décalage horaire qui fait qu'ils vont regarder plus de matchs. On regarde les matchs de Coupe du Monde des clubs, ça se déroule à quelle heure là-bas.
Après, je pense qu'il y a aussi le côté influence et le côté club qui a l'habitude de gagner ça. On sait que Real, Barça, etc., c'est des clubs qui ont l'habitude d'avoir des ballons d'or et ça joue à un moment.
Il y a Pedri aussi. Hein,
le côté. Désolé, mais le côté Zidane qui, à la fin du match, dit, 3 jours après Inter-Barça,
J'ai jamais vu ça,
ce que j'ai vu de la Mini Yamal.
Pas que Zidane.
Mais tous, il y en a plein qui l'ont dit. Et donc, du coup, ça a une voix dans le foot populaire. Le journaliste, il entend parler de ça. Il dit, ah ouais, Zidane, il n'a jamais vu ça.
Par contre, là où on n'a pas parlé d'un truc, et là, je suis d'accord, c'est que Deschamps, par exemple, son discours, et c'est n'importe quoi. pour moi, les Français, Alexandre,
ouais,
ah, on n'a pas le temps.
Comme Sacco qui vote pas pour Ribéry et qui dit on va, voilà, c'est des débats où on aurait pu
après,
continuer.
Voilà, en Espagne, il faut pas l'Union Sacro.
Mais j'attendais, bon, on n'a pas assez de temps, mais j'attendais un débat un peu plus constructif quand même autour de ce qui vous choisissez. Et Jason, toi, c'est qui que tu mets en favori?
Bon, pour moi, Dembélé par rapport à la saison qu'il a fait.
Ok, Dembélé pour toi, Dembélé pour Maxence, Yamal pour Alexandre, il y a mal.
Mais après,
pour...
c'est pas un vol si Dembélé gagne.
Moi, je serais content.
Si ça arrive, il n'y a pas de scandale. Franchement, je suis content. Oh, il a volé le ballon d'or, machin. Il n'y a pas de vol. Que ce soit dans son
sens. Je suis vraiment content s'il le gagne.
Ça dépend. Ça dépend quand même.
C'est une sorte
de Madrilène qui parle.
Non, ouais, ça, c'est absolument pas. Mais vous savez, attendez. Mais moi, je suis le premier à avoir dit, déjà, pour moi, quand on parle de ballon d'or, on devrait obligatoirement citer le nom de Rafinha. Mais tout le monde l'a mis à l'oublier.
Excusez-moi.
Rafinha, il touche le ballon. Est-ce que tu vois une différence avec Yamal qui touche le
ballon? Non, mais moi je te parle pas
de la saison.
Mais je te parle de la saison.
Je te parle
d'importance et de la saison. Je te parle pas de quand il touche le ballon. Je te parle de. Aujourd'hui, s'il gagne la Ligue 1,
de la Ligue des Champions.
Je te dis pas le
contraire. C'est un scandale, ça, tu vois.
Je sais pas si c'est un scandale, mais je te dis juste. Je sais pas si c'est un scandale.
Il peut pas mieux faire, le gars. Il ne peut pas mieux faire.
Mais c'est bien le problème.
Je vous dis juste. En tout cas, Rafinha avec ses stats, c'est pour ça. Moi, ça me dérange qu'on ne parle pas. Mais bon. Puisqu'on a décidé de faire de la promo pour Yamal, qu'il en soit ainsi. Excuse-moi, Maxence.
Bah non, mais faut pas dire n'importe quoi.
C'est pas toi. Mais il comprend pas. Bah, mais Maxence, il veut pas lâcher ma veste aujourd'hui. Je te parle de Yamal à la place de Rafinha. Le fait qu'on ne parle pas de Rafinha, c'est parce qu'on fait la promotion de Yamal. C'est comme un peu Bellingham et Vinicius.
C'est un peu comme ça qu'on fasse la promotion de Rafinha devant Yamal.
Non,
on parle pas de la même chose, les gars.
Mais c'est chacun sa sensibilité. C'est chacun.
Parce qu'il y en a, ils vont plus te dire la sensibilité footballistique de Yamal, mais d'autres vont te dire statistiquement de Rafinha. Ah, ouais.
Excusez-moi, je vais vous poser une question. On parle de Mercato, Leroy Sané, Cherki, Paul Pogba, l'AS Monaco, Hussein au Real, etc. Ou on se fait un petit quiz?
Petit quiz. Mercato, vas-y. C'est comme le ballon d'or. On en parle beaucoup pour pas grand chose.
On verra quand ils seront sur le terrain.
Ok, ça marche. Alors, on va juste se faire une petite virgule avant de revenir. De retour pour le petit quiz. Léo, quand tu veux. C'est parti. Première question. Quel joueur a marqué dans 5 Coupes du Monde différentes?
Klose.
Cristiano.
Ouais, j'aurais dit Cristiano aussi.
Non, il a pas marqué la dernière, je crois.
Messi. Moi, j'irai avec Klose.
Ah, c'est Messi. R9
Mais c'est Cristiano Ronaldo.
Ah, c'est Ronaldo.
Mais comme t'as changé,
mais non,
Léo.
Ah,
ouais, il a changé. Il a changé.
J'ai demandé. Bon, après, toi, t'as suivi ce que t'as dit.
Mais
tu me réponds pas.
Ok, bon, on va me donner. Non, mais je prends l'avis de tout le monde.
On aurait pu préciser que c'était en match de poule qu'on parlait.
Ça compte la Coupe du Monde.
Je rigole. Que Cristiano, il a jamais marqué.
Franchement, on va parler. Deuxième question. Quel club anglais a été le premier à remporter une Coupe d'Europe?
Nottingham.
Nottingham, c'est 81-82.
Aston Villa.
Ouais, je crois que c'est Aston Villa aussi.
Je suis Aston Villa.
Et bah, c'est personne n'a la bonne réponse.
C'est Leeds.
J'en fais un de... Non,
c'est
Leeds
Liverpool.
Pour toi. Liverpool pour toi.
Ah, c'est Derby. Non.
Je sais pas.
Non, j'ai pas d'idée.
Je vous le donne.
Vas-y.
Ok.
C'était moins UP, je crois.
Tottenham Hotspur.
Waouh, alors je l'aurais jamais eu.
C'était Tottenham.
En 70 ?
En 63, il me semble. Ou 62-63, il me semble. Ouais. Quel est le seul joueur à avoir remporté la Ligue des Champions avec 3 clubs différents ?
Seedorf.
Ah,
il est bon, il est très très
deuxième
bien joué.
Point pour très vite dans Jason. Quel pays a accueilli 2 fois la Coupe du Monde sans jamais la gagner ?
L'Angleterre. Quel pays quoi ?
A accueilli deux fois la Coupe du Monde sans jamais la gagner.
Accueilli ou va accueillir ?
A accueilli deux fois la Coupe du Monde sans ne l'avoir jamais gagnée dans toutes ses compétitions.
Le Mexique.
J'ai pas. Oh, j'ai pas.
Moi j'aurais des États-Unis.
États-Unis ?
Non, ils l'ont accueilli.
Et toi tu veux pas donner de réponse ?
Ouais, j'ai pas. Franchement, j'ai pas.
Et bah, c'est le Mexique.
Ouais.
Le Mexique 70-86. Tu peux poser ton téléphone, s'il te plaît, Alexandre ?
Oui, oui, non, je regarde les buts.
Oui, on sait jamais.
C'est comme ça.
Merci, merci, Alexandre. Question suivante. Quel joueur a reçu le plus de cartons jaunes dans l'histoire de la Ligue des Champions ?
Sergio Ramos.
Sergio Ramos, la remontada oui. De partout.
Des questions comme ça, c'est sûr que c'est un joueur du Real.
Lui ou Pep ? J'aurais dit Pep, moi. Donc,
là. Du coup, quel pays a remporté la première Coupe du Monde de football ?
L'Uruguay.
L'Uruguay pour Léo qui revient à 2-2-2-2. Maxence,
une question. Je suis absent, c'est les Marseillais.
Une question sur l'OM, c'est ça ?
Vous avez coupé le micro.
Ok. Dernière question, ça peut sceller. Quel est le seul club à avoir gagné le triplé championnat, Coupe nationale, Ligue des champions, deux fois d'affilée ?
Bayern.
Bayern.
Le FC Barcelone. Non.
Le Real Madrid.
Deux fois d'affilée.
Oui. Bayern, Real Madrid.
Non, ils ont non, le FC Barcelone, je pense.
FC Barcelone, Bayern.
Mais je crois pas que ça.
Non, 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 pas Bayern.
Deux fois d'affilée, le Barça. D'affilée. Il donnerait jamais une question où c'est le Barça la réponse.
Le Real alors.
Real.
Non, c'est pas le Real.
Toi, tu dis Real, Real.
Ouais, Real.
Et toi, t'as dit.
Non, c'est pas le Real.
J'ai besoin de vos réponses rapidement, messieurs. Il reste quelques secondes.
Milan. Champion.
Là, c'est Milan. Milan.
Ouais, là, c'est Milan. Mais...
Là, c'est Milan. Toi, t'as dit Real. Toi, Real.
Là, c'est Milan.
Là, c'est
Milan. Milan.
Eh ben, je vais vous donner la réponse. Eh ben, il n'y a eu aucun club qui a gagné deux fois la Ligue des Champions. Du coup,
Real Madrid tricheur.
Ça fait égalité parfaite pour Léo, Jason et Alexandre. Vous n'avez rien laissé à Maxence, malheureusement.
C'est
Maxence,
peut-être
la semaine prochaine. En tout cas, on vous souhaite une très belle soirée. Merci à Léo à la technique. Merci à Jason.
Salut à tous.
À Alexandre. Merci à Léo.
Merci à toi.
Merci à Maxence. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Et on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. On vous fait de gros bisous.